Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien. Dans une seconde ou deux.
Je me tiens debout pour faire ma présentation.
Je vais être comme vous voulez, vous organisez ça avec votre. Moi, je ne reste pas là. Bon, alors, écoutez, je m'appelle Pierre Graveline, je suis directeur général de la Fondation Lionel Groulx et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque intitulé « 100 ans de production et de diffusion de notre histoire », colloque à l'occasion du centenaire de la première chaire d'histoire du Canada français attribuée en 1915 à Lionel Groulx par l'Université de Montréal. Ce colloque est organisé conjointement par la Fondation Lionel Groulx et l'Institut d'histoire de l'Amérique française. D'abord, je vous rappelle ou je vous informe, si vous n'étiez pas là hier, que le colloque est enregistré. Je vous invite à éteindre vos téléphones cellulaires, qu'ils soient intelligents ou non. Écoutez, c'est la deuxième journée de notre colloque. Hier, on a consacré la journée à revisiter Lionel Groulx, son œuvre, avec une conférence d'ouverture de Pierre Trépanier, avec ensuite deux séances consacrées à la sensibilité historienne de Lionel Groulx et à Groulx dans la cité. Aujourd'hui, bon, c'est vraiment une deuxième partie de notre colloque qu'on amorce, qui va porter plus sur l'histoire aujourd'hui au Québec. Dans un premier temps, ce matin, une table ronde débat sur le rapport à l'histoire depuis Groulx. Et cet après-midi, une séance consacrée à la vulgarisation et la diffusion de l'histoire au Québec. Pour animer ce matin, donnez une seconde. Alors, pour animer la table ronde ce matin, donc, sera animée par Mme Karine Hébert, qui est professeure d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski. Ses recherches et publications portent sur l'histoire des femmes, de la jeunesse et du patrimoine dans le Québec contemporain. Elle est notamment l'auteur de « Impatient d'être soi-même, les étudiants montréalais 1895-1960 », prix des fondateurs de la Société canadienne d'histoire de l'éducation en 2010. Elle est membre du conseil d'administration de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Madame Hébert.
Merci, M. Graveline. Est-ce que le micro fonctionne?
Micro.
Oui, comme ça? Parfait. Là, j'ai pas parlé encore. Là, ça va? Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième journée de colloque. Comme M. Graveline l'a dit, journée qui est consacrée beaucoup plus à une réflexion sur la pratique actuelle, faire le bilan de ce qui s'est passé finalement depuis la création de la chaire de Lionel Groulx. Nous avons proposé aux quatre panélistes ici ce matin quelques questions pour orienter les débats que je vais vous lire d'ailleurs ces questions-là pour vous permettre aussi de préparer vos interventions pour après les présentations. Donc, au cours des 100 dernières années, la production et la diffusion de l'histoire du Québec et de l'Amérique française a connu des transformations majeures, tant sur le plan des artisans de cette histoire, de ses conditions d'énonciation, que de ses objets et de ses approches. Le modèle d'historien qu'incarnait Lionel Groulx, polygraphe, engagé, soucieux de professionnaliser une discipline, entrepreneur culturel, tout ça en même temps semble difficile à envisager aujourd'hui. Et cette constatation suscite de nombreuses interrogations sur les changements qui se sont opérés dans notre rapport à l'histoire en tant qu'historien, historienne et citoyen, citoyenne. Donc, quatre questions soumises aux panélistes pour orienter les discussions. Quelles sont de nos jours les conditions d'énonciation de l'histoire? En quoi sont-elles différentes ou similaires à celles qui prévalaient au siècle dernier? Quelle place occupent les historiens, les historiennes et l'histoire dans la cité? Comment la professionnalisation de la discipline a-t-elle pu ou non ériger des barrières entre la pratique historienne professionnelle et l'espace public? Comment s'arriment les changements d'objet et d'approche en histoire avec les profondes transformations sociales, politiques et culturelles qui sont survenues au Québec et dans l'Amérique francophone dans son ensemble? Et finalement, à l'époque de Groulx, comme aujourd'hui, l'enseignement d'histoire possède une grande pertinence sociale. Donc, quelle est cette pertinence actuelle tant du point de vue de la forme que du contenu? Donc, c'est très large. Chacune de ces questions-là pourrait à elle seule nécessiter des heures et des heures de discussion. J'ai demandé aux panélistes de répondre à 2, 3 ou 4 d'entre elles et ensuite nous offrirons la parole à la salle, 12 à 15 minutes pour chacune des interventions. Et nous commençons avec Madame Linda Barry, qui est une passionnée d'histoire et réalisatrice à la radio de Radio-Canada. Elle a produit plusieurs séries documentaires historiques, dont La Révolution tranquille 50 ans après, Les enfants de la crise d'octobre, L'invention de la radio et 14-18, La grande guerre de Canadiens. Elle a également publié aux éditions La Presse, Nos glorieuses, plus de 100 ans de hockey féminin au Québec. À vous la parole, Mme Barry.
Merci. Est-ce que je peux avoir de l'eau? J'ai déjà fini ma mienne, s'il vous plaît. Ça ne me dérange pas si je m'installe debout. Je passe mes journées assises à travailler, alors ça me fait toujours du bien de me tenir debout un peu. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité organisateur de m'avoir invité. Je suis vraiment flattée d'être ici, d'autant plus que je ne suis pas une historienne professionnelle. Moi, je suis une journaliste de formation qui travaille dans les médias depuis plus de 25 ans déjà. Quand Robert Comeau m'a appelé justement pour m'inviter, je lui ai dit, écoutez, je vais parler de ce dont je connais. Le rapport à l'histoire, c'est quand même assez large, alors je vais parler. Moi, j'ai travaillé autant en presse écrite, à la télé qu'à la radio, mais depuis plusieurs années maintenant, je suis revenue à la radio et j'ai dit, je vais parler du rapport de la radio publique, donc de la radio de Radio-Canada à l'histoire. Et je vais commencer par vous dire que ce n'est pas Radio-Canada qui a commencé à parler d'histoire à la radio, évidemment parce que ça n'a pas été la première radio ici au Québec, ça a été CKAC, quelques années après justement la création de la chaire en histoire par Lionel Groulx en 1915. Donc en 1922, il y a eu la création de CKAC. Et 3 ans plus tard déjà, on offrait sur les ondes de CKAC des causeries sur l'histoire, qui étaient très suivies apparemment. Les causeries, c'était des formes de conférences qui étaient très populaires dans les premières années de la radio. Et plus tard, Édouard Monpetit, qui n'était pas historien, à moins que je me trompe, il était économiste, Édouard Monpetit, offrait lui aussi des causeries pendant toutes les années 30 sur les ondes de CKAC, dans le cadre d'une émission qui s'appelait L'heure provinciale, qui était très, très suivie, et L'heure universitaire aussi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, 90 ans plus tard, on n'imagine pas à Radio-Canada une émission qui s'appelle L'heure universitaire. On appelle les émissions médium large, mais pas L'heure universitaire. Plus tard, à Radio-Canada, Radio-Canada a fait beaucoup de place aussi à l'histoire, entre autres dans les années 40-50 avec Radio-Collège, où il y avait des cours sur l'histoire offerts, entre autres, par l'abbé Albert Tessier. Il y avait même un cours d'histoire des femmes offert par l'historienne Marie-Claire Develuy entre 1943 et 1948. Robert Humilly a fait des capsules dans les années 60, une série sur l'histoire des journaux canadiens-français qui s'appelait « Si femmes savaient ». J'imagine que ça s'adressait aux femmes tout particulièrement. Je pourrais pas énumérer ici toutes les séries qui ont été faites à la radio de Radio-Canada sur l'histoire. Il y en a eu énormément. Il y en a eu sur l'histoire de la Nouvelle-France. Il y en a eu sur l'histoire de l'Union nationale. Il y en a eu sur René Lévesque, sur Robert Bourassa. Il y en a eu sur la Dépression, la vie quotidienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été une préoccupation constante. Je ne peux pas nommer toutes les émissions où les historiens ont participé. Je sais que celui qui a été le plus souvent à notre antenne, j'ai fait une petite recherche rapidement avant de venir, puis c'est Jacques Lacourcière, évidemment, on s'en étonnera pas. 1425 apparitions à la radio ou à la télé de Radio-Canada tout au long de sa carrière, c'est quand même beaucoup. Donc, Radio-Canada n'a pas été la première radio à parler d'histoire, mais elle en a parlé beaucoup. Alors, est-ce que la place de l'histoire à la radio publique, à la radio de Radio-Canada a changé? C'est difficile à dire, ça prend une étude exhaustive, je peux juste vous parler de mon feeling. C'est sûr qu'il y a des gens, et ce qui est C'est étonnant quand même, c'est que c'est pas nécessairement des historiens qui viennent parler d'histoire à la radio de Radio-Canada. Souvent, c'est des anthropologues. Je pense à Serge Bouchard, qui a fait pendant plusieurs années des émissions sur l'histoire. Je pense à André Martineau aussi, qui est anthropologue lui aussi, qui a une capsule tous les jours qui s'appelle À rebours, le matin, qui est diffusée, qui parle de faits historiques. On fait encore des séries. Moi, je pense qu'on en fait moins qu'avant. Moi, j'ai plaidé auprès de la direction de Radio-Canada pour m'engager à temps plein pour que je fasse uniquement ça parce que c'est ce que j'adore faire. Mais on me dit, écoute, Linda, c'est pas qu'on veut pas, on aime ça, mais ça coûte très cher faire des séries sur l'histoire. Et la priorité, c'est l'actualité. C'est sûr que l'actualité, ça va devenir l'histoire dans 20 ans, dans 50 ans. Mais Radio-Canada, étant donné les nombreuses vagues de compression dans les 10 dernières années, l'histoire, ça prend du temps. On n'est pas à une conférence de presse. On nous donne pas un communiqué. Je dis, il faut fouiller, il faut réfléchir, il faut mettre ensemble, il faut offrir une perspective. Alors, c'est sûr que ça coûte plus cher. C'est pas qu'il n'y a pas une volonté, mais ce qu'on me dit, moi, c'est qu'il y a un manque de ressources pour le moment. Est-ce qu'on invite moins à la question de Karine Hébert? Quelle place occupent les historiens dans la cité, autrement dit, sur la place publique? Là, je peux parler de la radio publique. On n'entend plus les Jacques Lacourcière et Denis Vaugeois, mais on entend quand même Éric Bédard, on entend Laurent Turcot de plus en plus, on entend André Ducharme, Évelyne Ferron, il y a des jeunes historiens montants. Mais j'ai l'impression, et ça c'est un feeling encore une fois, là, c'est pas appuyé sur une étude quelconque, mais qu'on invite beaucoup moins d'historiens quand même qu'il y a 25 ans à l'antenne de la radio publique. On invite plus d'économistes, on invite plus de professionnels de la publicité ou du marketing, on invite des gens spécialisés en médias sociaux, des relationnistes. Et pourquoi? Ça, c'est évidemment les gens qui travaillent à l'intérieur de la boîte qui en sont responsables. Peut-être que ça intéresse peut-être un petit peu moins les recherchistes. Ou les journalistes. Mais je pense aussi que les historiens ont aussi une part de responsabilité. Parce que pour passer dans les médias, et là, je vais faire ma praticienne, puis Robert Comeau me dit de provoquer un petit peu aussi. Je pense que les historiens, c'est sûr que pour passer à l'antenne, faut vulgariser. Vulgariser, ça veut dire, oui, faire des compromis. Ça veut dire, oui, des fois, faire des raccourcis. Ça veut dire, oui, séduire pour accrocher son auditoire. C'est peut-être un prix à payer que veulent pas payer tous les historiens. C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est mal vu chez les historiens, chez les universitaires, de vulgariser l'histoire? De un, est-ce que c'est mal vu aussi de sortir de son champ très, très pointu d'expertise pour parler d'une période qu'on n'a pas étudiée pendant de nombreuses années? Est-ce que c'est mal vu, ça? Parce que moi, je pense que quand on a des bons vulgarisateurs, il y a toujours des preneurs aussi. Je rêve et j'en ai parlé à mes patrons et je cogite ça. J'aimerais ça faire une émission sur l'histoire. On a une émission sur l'alimentation, on a une émission scientifique, on a des émissions sur l'économie, on a des émissions sur toutes sortes de choses, mais on n'a pas d'émission sur l'histoire. Les Européens en ont, nous on n'en a pas. Parce qu'on est trop, on focalise trop sur le présent, constamment le présent, l'actualité. C'est bien de s'intéresser à l'actualité, c'est ce qui fait nous aussi des citoyens éclairés qui prenons des décisions éclairées, on l'espère, mais je pense que c'est essentiel aussi qu'on ait une perspective historique. Alors, ces temps-ci, c'est la première fois depuis 15 ans à peu près que je travaille pas sur des documentaires historiques, je travaille avec Boucard Diouf, je réalise La nature selon Boucard, qui va être diffusée cet été, et c'est vraiment intéressant parce que Boucard, je parle pas nécessairement de l'humoriste qu'il est, mais c'est quand même un docteur en océanographie. C'est un scientifique, un biologiste, qui a étudié, je pense, sa thèse de doctorat et portait sur un petit poisson, je me souviens plus du nom, là, et sa résistance au froid, là. C'est très, très, très pointu, mais Boucard, la qualité qu'il a, c'est qu'il ouvre, justement. Il peut parler. C'est un grand vulgarisateur. Et des fois, et là, je vais peut-être vous choquer encore une fois, mais des fois, je me dis, ça serait le fun d'avoir un Boucard. Pas quelqu'un qui fait rire. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de la vulgarisation, mais un historien qui rassemble les gens autour de l'histoire. Et ça fait partie de... C'est pas uniquement de trouver une vedette, c'est pas ça l'idée, mais c'est quelqu'un qui va amener les gens à l'histoire. Et c'est ce que je me souhaite que la direction accepte un projet porteur d'émissions sur l'histoire. Je trouve que ce serait essentiel. C'est ce que je me souhaite. Je le souhaite à la radio, je le souhaite à la télévision aussi, je le souhaite sur les médias sociaux. Moi, j'ai deux adolescentes à la maison qui considèrent que la radio, c'est un médium du 14e siècle et qui n'écoutent pas la radio, qui ne regardent même pas la télé. Elles sont scotchées à leur cellulaire et à leurs ordinateurs. Donc, il faut utiliser aussi comme historien, et nous, gens des médias aussi, le web, là où les jeunes sont, les médias sociaux, là où les jeunes sont. Il faut que l'histoire passe autant à la radio, à la télé que sur les nouveaux médias. Alors, c'est la grâce que je nous souhaite. Merci.
Merci, Mme Barry. Maintenant, nous allons entendre M. Jacques Beauchemin, qui est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Il se spécialise en sociologie politique et en sociologie de la société québécoise. Depuis quelques années, ses travaux ont porté sur les transformations de la question nationale québécoise à la lumière de la recomposition de la communauté politique, désormais caractérisée par la pluralité. Auteur de très nombreux articles sur la question du Québec, il a notamment fait paraître en 2002 chez VLB éditeur L'Histoire en trop, et ce prix s'est mérité le prix Richard Arès en 2002. C'est vraiment très court comme CV, mais donc une douzaine de minutes.
Merci Karine. J'imagine qu'on va m'entendre bientôt, voilà, c'est fait. Alors, bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour partager quelques réflexions sur cette vaste question qui est celle du rapport à l'histoire. Notion d'ailleurs qu'on aurait intérêt à définir minimalement, je vais essayer de le faire dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais nous poser collectivement une question assez vertigineuse. Hein, on peut dire, on peut d'abord se poser la question de savoir à quoi sert l'histoire. Quelle est sa fonction sociale, avant d'interroger le rapport que nous avons à l'histoire? À quoi sert l'histoire? On peut dire de manière très synthétique, en tout cas je vous le soumets de cette manière assez concise, que l'histoire, la fonction sociale de l'histoire, c'est essentiellement celle de contribuer à faire société, à fabriquer de la société. L'histoire, ce qu'elle fait, dans le grand récit qu'elle propose, c'est d'abord de définir le sujet de l'histoire, le sujet avec un S majuscule. Qui est le sujet d'une histoire? Elle inscrit ce sujet, lorsqu'il est défini, dans une continuité, dans une trame, qui lui rend intelligible ce qu'on pourrait appeler un parcours. On est parti de quelque part, on s'en va quelque part. Il y a une espèce de dimension téléologique à l'histoire, inscrire le sujet dans une continuité, lui assigner en quelque sorte un projet qui est minimalement celui de sa perduration, hein, continuer d'être dans l'histoire, continuer de s'inscrire dans cette trame, dans cette continuité. En ce sens-là, l'histoire fabrique de la société. Il y a d'autres ingrédients à cette fabrication, les institutions, évidemment, le droit, l'État, le marché. Le marché est une autre grande institution qui fabrique la société. L'histoire, par la mise en récit qu'elle fait de ces éléments disparates, contribue à produire quelque chose qui s'appelle notre monde commun. Et elle contribue à la représentation de ce monde commun. Maintenant, quel rapport avons-nous à l'histoire? D'abord, que signifie la question du rapport à l'histoire? On peut dire essentiellement que ça renvoie à cette idée très générale de ce que l'histoire représente pour nous. Nous sommes fabriqués par ce grand récit, mais en même temps, nous y sommes extérieurs. Je vois bien qu'on me propose un récit que je n'ai pas écrit moi-même, évidemment, auquel je participe à ma manière. J'ai un rapport à ce récit. Je peux, par exemple, rejeter la proposition qu'on me fait, en me disant, au fond, l'histoire qu'on me propose, moi, je ne la comprends pas comme ça. Je peux, au contraire, y adhérer très fortement. Je peux décider de me faire le défenseur de ce grand récit, en m'en faisant moi-même l'interprète. C'est le travail des historiens, très souvent. C'est un rapport à cette chose qui est soudainement extérieure à moi. De quelle manière, donc, j'adhère, je n'adhère pas, de quelle manière je considère le grand récit qu'on me propose. L'histoire, donc, fabrique de la société, et l'histoire m'invite, en tant que grand récit du nous collectif, m'invite ou bien à y adhérer, ou bien à prendre une posture critique vis-à-vis de ce récit. Dans l'histoire du Québec, dans la longue histoire du Québec, je voudrais distinguer deux moments, même si ce que je vais dire maintenant est extrêmement schématique et sujet à caution. On peut dire que, durant longtemps, l'histoire a servi à imaginer le sujet canadien-français. De Garneau à Gros, on en a parlé beaucoup hier, de Garneau à Gros, on est en face d'une histoire qui brosse le portrait d'une collectivité qui est inquiète, conquise, menacée de disparition après l'acte d'union. Une collectivité qui est très, très loin des centres de pouvoir. L'économie lui a échappé. Sur le plan politique, c'est une collectivité qui est dominée. Je ne reviens pas sur les circonstances entourant l'acte d'union, ni sur les effets concrets de l'acte d'union sur le plan politique, mais Garneau écrit son histoire dans ce contexte-là. Et ce qu'il cherche à faire, c'est de dessiner les contours d'une collectivité qui est inquiète et qui, au fond, a un profond besoin de ce grand récit jeté sur elle-même pour pouvoir se représenter comme sujet de l'histoire qui peut perdurer, qui peut persister. Garneau s'en cache pas. Son histoire du Canada, elle est écrite dans cette perspective-là. Hein. Garneau dit « Je veux rétablir la valeur des miens. Je veux réparer une injustice, au moins sur le plan discursif. » Sur le plan historique, je veux fournir aux miens les raisons pour lesquelles ils doivent et peuvent survivre et se défendre devant les forces adverses qui les menacent. C'est ce qu'il fait. Eh bien, on a parlé beaucoup de Gros hier, c'est ce que Gros fait à sa manière, à travers l'ensemble de son œuvre. On a parlé beaucoup hier de son histoire du Canada français, qui est une espèce de fresque magistrale dans laquelle, précisément, il dessine à sa manière, la figure de la collectivité canadienne française. L'appel de la race au roman de 1922, qu'on a évoqué hier, et qui peut faire sourire aujourd'hui quand on le lit, portait essentiellement le projet d'une fabrication de la collectivité canadienne française en la protégeant, évidemment, des forces qui la menaçaient de l'extérieur. Longtemps, l'histoire, le rapport à l'histoire, dans le Québec, a été cette espèce d'adhésion à un discours dont la collectivité avait absolument besoin pour pouvoir se représenter comme sujet qui était autrement évanescent, un sujet qui était menacé sous plusieurs rapports et qui devait trouver dans son récit sur lui-même les raisons de sa valeur et de sa persistance dans l'histoire. Ça a été longtemps, je le dirais de manière générale, notre rapport à l'histoire. Alors, pour faire court, et j'ai annoncé que ce serait schématique, on est passé dans le Québec d'aujourd'hui à autre chose, à un autre rapport à l'histoire. Ce n'est plus la même adhésion que nous avons à ce récit, auquel on pouvait s'accrocher presque comme une bouée. L'histoire d'aujourd'hui, vous savez, elle est écrite de manière très différente. C'est une histoire qui s'est ouverte à la pluralité de la société québécoise, à son caractère multiculturel, qui s'est ouvert à la différence. On a redécouvert les mérites et les vertus des sociétés amérindiennes. On a redécouvert l'importance des diverses communautés ethniques qui sont venues se joindre à l'aventure canadienne-française et y ont contribué. On a redécouvert l'importance de certains groupes sociaux, les femmes en particulier, auxquelles on consacre maintenant des chapitres entiers dans l'histoire, ce qui n'est certainement pas une mauvaise chose. Mais vous voyez que l'histoire qu'on écrit maintenant est d'une toute autre farine. Hein? Il s'agit de rendre justice aux divers regroupement identitaire qui forme la société québécoise. Une histoire ouverte de tous les côtés, une histoire plurielle adaptée à la pluralité de la société québécoise et, comment dire, très proche de cette espèce d'éthique pluraliste qu'on retrouve partout. Hein, c'est-à-dire la nécessité maintenant de reconnaître à tous leurs droits et leurs valeurs. Alors, c'est une autre histoire qui fabrique, elle aussi, à sa manière, la société, mais qui la fabrique de telle manière que, comment dire, l'adhésion au récit qu'elle propose n'a plus la même forme. On n'adhère plus maintenant à une espèce de récit totalisant d'une collectivité. On essaie de trouver sa place dans ce récit-là. Est-ce que moi, j'ai ma place? Est-ce que ma génération est bien représentée? Qu'est-ce qu'on dit des baby-boomers dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on dit des femmes? Qu'est-ce qu'on dit de ces immigrants qui ont construit le chemin de fer au Canada? Je sais pas. On pose ces questions-là aujourd'hui à l'histoire. Et on lui adresse un ensemble de récriminations, parce qu'évidemment, chacun ne trouve pas toujours la place qu'il croit devoir y occuper. Une histoire un peu, comment dire, plurielle, pluraliste, fragmentée, qui colle à une société elle-même, plurielle, pluraliste et fragmentée. Une adhésion qui n'est plus du tout celle que proposait l'histoire canadienne-française de Garneau à Gros. Alors, un paradoxe. On pourrait m'opposer le fait que, c'est Justin Létourneau qui le ferait s'il était dans cette salle, on pourrait m'opposer le fait que, c'est ce que Létourneau montre, que les jeunes aujourd'hui, ces recherches le montrent à Létourneau, lorsqu'on leur pose la question de savoir ce qu'est l'histoire du Québec en une page, ben ils adhèrent encore totalement à cette espèce de discours victimaire d'une collectivité menacée, fragile, inquiète, Garneau-Grou, en 2015, mais qui a survécu, qui s'est battue, qui est valeureuse et qui, ma foi, mérite d'être encore là aujourd'hui. Alors, Létourneau se décourage de la persistance de ce discours-là, en disant comment ça se fait que les jeunes, ils connaissent très mal l'histoire, là, connaissent peu, mais lorsqu'on leur demande de dire quelque chose, ben, c'est ce qu'ils nous disent. Il nous retourne la représentation canadienne-française qui dominante de Garneau à Gros. Bon. Alors, évidemment, Létourneau déplore cet état de fait en disant qu'il commencerait tant que le grand récit, que le rapport à l'histoire des jeunes soit, disons, mieux adapté à la réalité québécoise d'aujourd'hui, y compris la leur propre. Et quelle explication nous fournit Létourneau de cet étrange fait? Il nous dit, au fond, les jeunes nous recrachent cette représentation parce qu'il n'y a pas de discours alternatif. Il n'y a pas de récit alternatif. Ils répètent quelque chose qu'ils ont entendu, qui répercute un peu partout, mais en réalité, c'est parce qu'ils n'y a pas d'autres discours qui peut s'imposer à eux. Il y a une espèce de vide qui est comblé par cette espèce de rhétorique. Alors, c'est une hypothèse intéressante, il y a peut-être raison, ça vaudrait la peine d'examiner ça. Mais on peut dire aussi, on peut penser que si les jeunes adhèrent spontanément, ont ce type de rapport à l'histoire, adhèrent spontanément à ce récit-là, c'est parce que précisément existe et continue d'exister le besoin de se rapporter à une représentation totalisante de l'être ensemble québécois. On a besoin de se donner, comme au temps de Garneau et Gros, mais pour d'autres raisons, un récit à l'intérieur duquel nous nous apparaissons comme collectivité totale et entière, unique, et non pas comme l'agglomération de composantes diverses et variées de la socialité québécoise. Alors, quand les jeunes écrivent en une page pour répondre à la question de Létourneau, l'histoire du Québec, l'histoire d'un Québec victime de l'histoire, menacé et survivant, c'est pas parce qu'ils font montre d'une grande connaissance de l'histoire. C'est parce qu'ils veulent, en cas c'est une hypothèse, plus ou moins consciemment, participer à quelque chose qui va les rassembler, qui va les ramener dans l'espace d'une collectivité porteuse de sens. Une collectivité qui se définit de manière générale et non pas dans l'agglomération du particulier. C'est dire que le rapport à l'histoire varie en fonction des conditions sociales à l'intérieur desquelles on fabrique l'histoire, en même temps que l'histoire fabrique la communauté. Mais je vous soumets en terminant que, en arrière-plan de ces variations, en arrière-plan de ces transformations du rapport à l'histoire, subsiste la nécessité d'une représentation totalisante de la collectivité, dans laquelle l'aventure commune prend un sens qui n'est pas simplement celui de la rencontre fortuite d'intérêts des diverses composantes qu'on retrouve en toute société. Il y aurait donc, dans ce que je vous soumets ce matin, une espèce d'arrière-plan ontologique à partir duquel le rapport à l'histoire, de toute manière, est toujours habité par ce besoin de représentation cohérente et totalisante de la collectivité. Je m'arrête là-dessus.
Je vais maintenant céder la parole à Martin Paquet. Martin Paquet a enseigné au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, et il est maintenant professeur titulaire au département des sciences historiques de l'Université Laval. Depuis 2010, il est également le titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, plus rapidement dite la CEFAN. Œuvrant en anthropologie historique, il s'intéresse aux multiples expressions des cultures politiques au Québec, au Canada et dans les francophonies nord-américaines depuis les révolutions de la fin du 18e siècle, début 19e siècle jusqu'à nos jours. Ses intérêts s'étendent aussi aux études migratoires dans une perspective transnationale et à la place de l'histoire dans l'espace public. Martin.
Merci, Mme Hébert. Vous avez posé 4 questions. Je vais tenter d'y répondre de manière succincte. La première question étant celle de quelles sont les conditions de l'histoire? En quoi sont-elles différentes et similaires à celles qui prévalaient au siècle dernier, à l'époque de Lionel Groulx? Je vais commencer par les similitudes, d'une part. Et j'ai ensuite identifié les différences. En termes de similitudes, il y a à l'époque de Groulx, il y a un fort sentiment parmi l'espace public de maintien d'une pertinence sociale des citoyens. Donc, on considère que c'est important, l'histoire, c'est pertinent, l'histoire. C'est une histoire qui nous permet de s'enraciner dans le passé, ça nous permet de s'habiliter, d'avoir des références dans le présent, de se projeter dans le futur. Et cette pertinence-là, ce maintien de cette pertinence sociale-là, il est encore présent aujourd'hui. Mme Berry l'a montré, entre autres, avec l'importance, justement, des émissions de radio. À cet effet-là, on peut le voir aussi avec les activités de commémoration, qui sont particulièrement nombreuses et qui se poursuivent aujourd'hui. Et ça, c'est des activités de commémoration. Ici, j'entends ici des activités qui sont relatives à la mémoire. La mémoire comme un sentiment d'appartenance qui permet de nouer une communauté autour du qui dure dans le temps. On le constate aussi avec les phénomènes qui sont relatifs au patrimoine, la patrimonisation. Le patrimoine, comme un bien transmis d'une génération à l'autre, traduit la valorisation qu'on fait des traces du passé, d'un édifice, d'une rue, du patrimoine immatériel, ainsi de suite, au regard des injonctions actuelles. On le constate aussi, également, et à l'époque de Groulx, comme aujourd'hui, cette similitude, c'est avec les dynamiques de la reconnaissance, avec les individus comme une communauté. Et ça, on voit très bien que les citoyens sont intéressés à leur histoire. Ils sont intéressés, par exemple, à travers toute une série d'études monographiques. Je vous donne un exemple très simple. Un des meilleurs vendeurs tout récemment, c'est « Vivre dans ce quartier populaire » de Dale Gilbert, qui porte sur le quartier Saint-Sauveur à Québec. C'est un succès d'édition. Pourquoi? Ben, c'est parce que, justement, les gens se reconnaissent dans cette histoire de quartier qui leur ressemble en tant que tel. Mais il y a des différences aujourd'hui entre l'époque de Groulx et la nôtre. Ces différences sont de deux types, celles des producteurs de l'histoire et celles de ceux qui la reçoivent, les récepteurs. D'une part, À l'époque de Gros, il était encore possible de faire de l'histoire comme un métier d'autodidacte. Maintenant, ce n'est plus le cas. La discipline historique impose des règles de pratique et de reconnaissance qui sont de plus en plus partagées. Regardez le nombre d'étudiants en histoire qui sont présents, entre autres ceux qui sont au cycle supérieur, demeure relativement constant depuis la Révolution tranquille, depuis cette démocratisation du savoir qui a lieu à ce moment-là. Et ces étudiants-là sont formés dans des cadres disciplinaires, des maîtrises, des doctorats, ainsi de suite. Ils sont rompus à l'historiographie, ils sont rompus aux méthodologies scientifiques. Puis ces éléments de discipline constituent un ethos, un ensemble de dispositions actives, acquises qui leur permettent de pratiquer un métier et d'être reconnus comme des praticiens. Et ces acquis demeurent, même s'il y a des aléas de carrière, même si on ne fait pas sa carrière en histoire en tant que telle. Ils assurent parmi ces gens un regard spécifique sur le passé et une exigence à des normes de qualité dans le traitement des traces passées. Ce qu'on peut voir aussi également, c'est un double mouvement parmi les producteurs. À l'époque de Gros, il était facile d'être un généraliste, dans un certain sens, de traiter d'une période de manière générale en tant que telle. Là, désormais, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus une spécialisation constante des objets d'étude, qui se ramifie selon l'actualisation des demandes sociales. On voit à la fois celle du champ scientifique et celle de la société dans son ensemble. Donc, on voit l'apparition de toute une série, genre que Bouchman faisait référence tout à l'heure, toute une série de nouveaux objets d'étude qui correspondent à la fois aux demandes du milieu scientifique, mais aussi aux demandes du milieu social. Donc, l'histoire des femmes, du genre, l'histoire du travail, de la classe ouvrière, l'histoire des Amérindiens, l'histoire des communautés culturelles. On voit aussi l'apparition de nouveaux problèmes sociaux, l'histoire socioculturelle, l'histoire de l'environnement, l'histoire de la médecine du corps ou de l'âge, l'histoire transnationale, ainsi de suite. Et ces modifications sont surtout à l'intérieur du champ scientifique en tant que tel, champ universitaire en tant que tel. Autre élément, et je fais référence encore une fois à Mme Barry, elle mentionnait justement la présence d'anthropologues de plus en plus importants, c'est qu'on voit de plus en plus des intervenants en matière historique qui ne sont pas nécessairement formés dans le cadre de la discipline historique. Donc, on le voit dans le domaine des sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie, par exemple. J'en donne un bon exemple, d'ailleurs. On le voit aussi parmi les universitaires, les gens qui sont spécialistes en histoire littéraire. On le voit à l'extérieur de l'université également avec les écrivains, les romanciers, les journalistes, les cinéastes, les vulgarisateurs, les muséologues qui sont parmi les intervenants de la société civile. Cela crée parfois des tensions entre tous ces praticiens, surtout en matière de reconnaissance du produit fini et de la part sur le plan des connaissances. Mais cela crée également une richesse sur le plan des interprétations du passé qui est présentée sous de multiples formes, du roman au film, de la bande dessinée aux jeux vidéo, au festival, reconstitution, au musée, les activités de commémoration, ainsi de suite. Je vous parlais des différences et parmi les producteurs, il y a celle évidemment parmi les récepteurs. Et les récepteurs, ce sont les citoyens ici. Et de plus en plus, les citoyens sont qualifiés pour juger par eux-mêmes du contenu historique et pour émettre une opinion, que cette dernière soit informée ou non, articulée ou non. C'est une des conséquences de la démocratisation du savoir. Les gens sont détenteurs de connaissances, ils peuvent s'instituer comme juges et devenir eux-mêmes, entre guillemets, praticiens de l'histoire. Donc, ils peuvent critiquer et contester les autorités établies dans le domaine historien. Ils se considèrent aussi également comme des producteurs en tant que tels. Et là, ça a un impact important. Cette prédominance de l'opinion implique une scission entre histoire comme discipline scientifique et mémoire. Et la mémoire qu'on entend ici, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté à travers le temps. Et la mémoire implique un registre particulier. Ce registre, c'est celui de la fidélité, c'est celui de la justice. La notion de reconnaissance est particulièrement grande ici. Alors que la discipline scientifique de l'histoire, c'est un autre registre ici. Et c'est le registre de la vérité, parce qu'elle poursuit l'idéal de la vérité en tant que telle, en voulant produire des connaissances qui sont vraies et vérifiables. Or, l'opinion n'est pas nécessairement vraie, mais elle peut être surtout juste en tant que telle. Donc, les interventions publiques à propos du passé de la part de plusieurs de nos concitoyens reposent beaucoup plus sur cette quête de justice et de filiation plutôt que sur cette quête de l'idéal de la vérité. Deuxième question que Karine Hébert nous avait posée, c'est quelle est la place que les historiens et l'histoire occupent dans la cité? Et comment la professionnalisation crée des barrières. On le voit, cette place est relativement congrue, mais elle demeure celle d'une autorité, c'est-à-dire une autorité qui est reconnue, entre autres, par les pairs, pour interpréter les traces du passé, pour valider les interprétations le plus exactement et le plus justement possible. Étant campé dans le domaine de la science, l'histoire est une discipline scientifique, je tiens à rappeler ici. L'historien entretient des relations donc particulières avec la mémoire. Donc, comme c'est un praticien qui poursuit cet idéal de vérité historique, il comprend souvent mal les demandes en matière de justice et de filiation. L'université, d'ailleurs, possède cette mission constituée de poursuivre cet idéal de vérité. Les historiens universitaires sont encore plus favorisés, incités à privilégier cet idéal. Or, lorsqu'il y a des demandes sociales en matière de justice, en matière de filiation, on le voit entre autres avec les questions du patrimoine, on le voit avec les controverses mémorielles, ainsi de suite. Et donc, les historiens universitaires sont plutôt malhabiles, ne possèdent pas nécessairement tout le vocabulaire, tous ces codes qui leur permettent de fonctionner, parce que c'est un autre registre que le leur, en tant que tel. Troisième question que Karine nous avait demandé, c'est comment ça rime les changements d'objets et d'approches en histoire avec les profondes transformations. Je dirais qu'ici, il y a trois dimensions qui sont importantes, celle du terrain d'enquête, celle de l'enquête historique et celle des acteurs de l'histoire. Eh bien, depuis Groulx, la question du terrain d'enquête s'est profondément modifiée. Bon, d'une part, étant spécialiste des francophonies nord-américaines, je peux vous dire que le terrain d'enquête de Groulx était celui du Canada français. Le Canada français qui dépassait les frontières canadiennes. C'était également celui-là des États-Unis, entre autres, en tant que tel. Eh bien, c'est la disparition du Canada français comme projet national au profit d'une conception beaucoup plus territoriale. On le voit évidemment dans le cadre de l'histoire du Québec. On définit désormais, évidemment, le contour, la permanence historique du Québec autour de son territoire. Mais on le constate aussi vis-à-vis des autres groupes également. Partout en Franco-Amérique, les Franco-Américains, l'Ontario français. L'Ontario français a sa propre histoire désormais. Évidemment, il y a le cas de l'Acadie, mais l'Acadie qui possède ses propres éléments de définition qui vont partir de l'Acadie de l'Atlantique à l'Acadie des Maritimes, en passant d'une Acadie transnationale en tant que telle. Donc, pourquoi? C'est parce qu'il y a une dissociation entre la langue et la culture. Même si plusieurs peuvent le déplorer, même si plusieurs le contestent, cette disparition du Canada français, ce mouvement apparaît comme étant irréversible, surtout du fait que ces nouvelles communautés en Acadie, en Ontario français, les franco-américains, ainsi de suite, se reconnaissent comme légitimes, elles se reconnaissent comme telles, elles reconnaissent leur spécificité, leur distinction historique. Deuxième élément qui joue ici également, je dirais, c'est les demandes sociales portent sur la reconnaissance de nouveaux objets. Et ces nouveaux objets, c'est des objets qui sont reliés à de nouvelles appartenances. La question du genre, la question de la classe, la question des appartenances ethniques, raciales, sexuelles et autres. Ces dynamiques d'appartenance montrent la pluralité d'appartenance à la communauté politique, communauté qui se comprend, mais ne se limite pas seulement à la nation. Donc, terrain d'enquête. Deuxième élément, évidemment, c'est l'enquête historique en tant que telle. L'enquête depuis Groulx, la question d'une enquête globale s'est profondément modifiée. Bien, d'une part, il y a des conditions de production qui sont particulièrement importantes. À l'époque de Groulx, il était possible de travailler dans des centres d'archives. C'est un travail d'érudition, d'un long labeur en tant que tel. Désormais, les centres d'archives, l'accès à ces archives s'est considérablement amplifié en tant que tel. Et grâce à la numérisation, de plus en plus, il y a encore plus facilité. Donc, la constitution de corpus documentaires qui sont exhaustifs et la saisie de toutes les variables significatives devient une tâche titanesque. On ne peut plus vraiment travailler seul pour faire de l'histoire. On travaille nécessairement en équipe. Cela implique la mobilisation de ressources matérielles particulièrement importantes pour pouvoir faire une histoire d'ampleur en tant que telle. Ensuite, vu l'éclatement, justement, de l'historiographie en multiples approches, les historiens vont donc favoriser deux façons de fonctionner. Ils vont favoriser soit la synthèse pour présenter une lecture compréhensive et distancée d'un phénomène d'ampleur en mobilisant des études spécialisées, soit des essais pour offrir une lecture plus personnelle autour d'un aspect du passé. Dès lors, la recherche repose en grande partie sur des documents de seconde main, des études. Les historiens se servent des travaux d'historiens. Ils ne se servent plus nécessairement d'archives là-dessus. Et non pas sur les sources. Et dernier élément, on peut le voir entre autres avec les travaux d'un Gérard Bouchard, par exemple. Bon, avec la numérisation des corpus, de nouvelles approches se développent en matière de comparaison. Et dès lors, c'est beaucoup plus la mise en relation des variables dans différents terrains d'enquête qui jouent ici, au lieu de faire des études monographiques. Autre élément qui est mentionné après le terrain d'enquête et après l'enquête historique en tant que telle, c'est la question des acteurs de l'histoire. L'intérêt ne porte plus nécessairement sur les grands personnages prédominants. Remarquez bien que Groulx, dans la manière qu'il présente son histoire, il s'intéresse aux humbles également en tant que tels. Mais cette dynamique-là, elle est de plus en plus pratiquée. Cette pratique de l'histoire vue d'en bas, elle est beaucoup plus présente désormais. Pourquoi? Parce qu'il y a le développement de nouvelles sources là-dedans, des séries documentaires, les séries judiciaires, médicales, les listes de migrants, ainsi de suite, les recensements, les sources matérielles, les enquêtes orales en tant que telles, d'une part. Autre des nouvelles sources, c'est aussi l'emprunt à de nouvelles techniques, à de nouvelles façons, de nouvelles méthodologies qui sont d'autres disciplines, entre autres celles de la sociologie, de l'anthropologie. Cela permet de mieux comprendre les parcours individuels d'individus ordinaires qui font aussi l'histoire. Donc, c'est un élément qui correspond aussi à des demandes sociales de la part des citoyens. Je répète, donne encore l'exemple du travail de Dale Gilbert sur « Vivre en quartier populaire ». L'intérêt de des concitoyens pour une histoire qui leur ressemble est particulièrement fort ici. Dernière question que Karine Hébert nous posait, c'est la question de l'enseignement d'histoire qui possède une grande pertinence sociale. Quelle est cette pertinence tant du point de vue de la forme que du contenu? Je vais commencer, il y a deux éléments, selon moi, qui sont relatifs à la pertinence. Le premier concernant les contenus. La démocratisation du savoir repose sur l'élargissement de l'accès à la discipline historique, et ce, à tous les plans de la progression des apprentissages, de la maternelle à l'université et à la formation permanente. Ça, c'est un élément qu'on a tendance à négliger. Dès qu'on sort d'une institution scolaire, les citoyens suivent souvent des cours d'histoire. Pensez, par exemple, à toutes les universités du troisième âge qui existent. Pensez à toutes les activités de guide touristique qui existent en tant que telles. Il y a déjà un intérêt très présent. Elle se fonde également sur l'habilitation des citoyens afin de leur donner une perspective. Je pense, entre autres, aux données à propos de Jacques Parizeau, justement, sur l'importance de l'histoire, ne serait-ce pas non seulement de l'histoire nationale, mais de l'histoire dans son ensemble, pour se donner une perspective pour mieux, justement, intervenir dans l'espace public. Donc, ces contenus de savoir peuvent avoir une incidence sur la pertinence scientifique de l'histoire. Donc, en se spécialisant constamment, les citoyens cherchent à repousser les frontières de la connaissance pour ce qu'elle est en elle-même, et aussi sur sa pertinence mémorielle. Les citoyens cherchent des références dans le passé pour légitimer tel ou tel projet d'appartenance civique. Ça, c'est des éléments relatifs concernant au contenu. D'autres éléments concernant la pertinence portant sur la forme, eh bien, on peut le constater dans toute la querelle récente sur l'enseignement de l'histoire, c'est que depuis Groulx, les historiens ont laissé la place à d'autres spécialistes de l'enseignement, ce sont les didacticiens. Les didacticiens se constituent comme une discipline. Ils ont donc leurs propres enjeux disciplinaires qui orientent l'enseignement, dont celui en histoire. Et quand ces enjeux ne font pas consensus, d'autant plus que la didactique n'est pas encore pleinement constituée comme discipline scientifique unifiée autour de méthodes et d'objets. Il y a souvent des querelles de chapelle importantes là-dedans. Donc, un consensus sur la forme de l'enseignement est donc difficile à atteindre. On voit, par exemple, ces éléments d'un côté qui sont relais du socio-constructivisme avec la pédagogie par projet, ou au contraire, d'autres approches cognitives qui passent l'exposé magistral, enseignement, dans le milieu, et ainsi de suite. Un élément qui est important dans le cas de l'enseignement de l'histoire, c'est que justement les historiens ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Il y a une volonté de certains historiens de réintégrer cette question-là, mais c'est particulièrement difficile parce que ça devient une chasse gardée pour les tenants d'une autre discipline là-dessus. Un élément qui est particulièrement important, c'est la place des historiens, justement. Les historiens doivent donc intervenir dans l'espace public. Pourquoi? C'est une question, évidemment, d'éthique, de la responsabilité sociale qui est présente là-dedans. Nous sommes conscients que nous avons quelque chose à apporter à la société. Aussi, la société, les citoyens s'attendent de notre part aussi. Ils ont des demandes sociales qui sont importantes. Ils s'attendent donc justement à une réponse de la part des citoyens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Martin. Notre dernier intervenant de la table de ce matin, c'est Martin Petitclerc, qui est professeur au département d'histoire de l'UQAM. Il est également directeur du Centre d'histoire des régulations sociales. Ses projets de recherche portent actuellement sur l'histoire des inégalités sociales, l'histoire des lois spéciales et l'historiographie. Ses publications ont été récompensées par le prix Fondation Lionel Groulx et le prix Guy et Liliane Frégaud de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, ainsi que le prix Clio Québec de la Société historique du Canada. À toi, Martin.
Merci. C'est bon. Avoir su, j'aurais amené mes notes fumées. je voudrais remercier les organisateurs, les organisatrices de m'avoir invité à discuter de ce thème. Jacques Beauchemin l'a dit, très large et très difficile, du rapport à l'histoire depuis Groulx. Mon objectif dans cette courte présentation est de réfléchir à la question de notre rapport au passé avec, pour toile de fond, la société québécoise, dont on dit qu'elle aurait perdu ses repères mémoriels. Pour lancer les choses, je crois utile de revenir sur certains développements intellectuels qui se sont produits à partir du milieu des années 90 au sein de la communauté des chercheurs intéressés par l'histoire de la société québécoise. Si je dis communauté des chercheurs, c'est que je ne fais pas vraiment de différence entre les historiens, les sociologues, les politologues. Je pense que il y a là une communauté de recherche sur la société québécoise qui aurait avantage à se parler davantage. Et donc, je ne fais pas de chauvinisme disciplinaire. À ce moment, au milieu des années 90, Fernand Dumont posait la question suivante. Selon quelles conditions, héritées du passé, la société québécoise comprend-elle son cheminement? Cette question, tout à fait stimulante, a eu un impact significatif sur les réflexions entourant notre rapport au passé, dans l'université, comme dans la société en général. Plusieurs chercheurs, provenant d'horizons divers, ont tenté d'y répondre en recentrant le débat autour de l'identité historique et des valeurs qui lui étaient associées, de la majorité québécoise francophone. Merci. Wow. Sans en faire la généalogie précise, il faut pas s'endormir, par exemple. Sans en faire la généalogie précise, mentionnons seulement qu'à partir du milieu des années 90, un certain nombre d'universitaires, parmi les plus dynamiques dans le domaine des études québécoises, ont abandonné le... C'est pas si dramatique, mais ils ont abandonné leur objet de recherche pour se lancer dans une réflexion, généralement sur le mode de l'essai, sur le problème de la crise de la conscience historique des Québécois. Je pense notamment à Jacques Beauchemin, à Joseph-Yvon Thériault, à Gérard Bouchard, à Jocelyn Létourneau, à Yvan Lamonde. Parmi quelques autres chercheurs, et il faut le dire, assez peu de chercheuses, qui se sont intéressées à cette question de l'identité québécoise. Ces chercheurs ont produit des essais importants, peut-être même les plus importants publiés sur la société québécoise au cours de la première décennie des années 2000. Ils ont inspiré, en outre, un groupe de nouveaux chercheurs qui se sont, à l'occasion, réclamés de la nouvelle sensibilité. C'est notamment le cas d'Éric Bédard, qui a publié, il y a quelques années, ses essais sur notre rapport au passé dans son livre « Recours aux sources ». Malgré des divergences intellectuelles importantes entre eux, le point de départ de ces chercheurs était principalement que les Québécois francophones avaient, à tort ou à raison, la conscience historique malheureuse. Au risque de simplifier, on pourrait dire que cette question de la mémoire honteuse se posait au moment d'une mondialisation érigeant les valeurs universelles, la liberté individuelle, la liberté de commerce, la citoyenneté mondiale, etc., en absolu. Pour plusieurs, le défi de la période post-référendaire était de s'attaquer à la critique universaliste du nationalisme québécois, au nom d'une mondialisation libérale dont on disait plus ou moins qu'elle incarnait la fin de l'histoire. La défense de l'identité nationale québécoise était d'autant plus difficile, et là je reprends des choses, et je suis content de l'introduction de Jacques, était d'autant plus difficile que le verre était en quelque sorte dans la pomme. D'une part, du moins pour une partie des chercheurs intéressés par l'identité, les Québécois francophones auraient subi, au cours de la rapide modernisation des années 60-70, une rupture mémorielle profonde, voire même un déracinement, qui leur aurait donné une honte durable de la référence canadienne-française, autour de laquelle s'articulaient les principales grandes références mémorielles, telles que l'a présenté Jacques Beauchemin à travers le grand récit national, donc des historiens traditionnels, entre parenthèses. D'autre part, la société québécoise était également menacée de l'intérieur, notamment par une segmentation identitaire de la communauté politique. Dans un livre important, Jacques Beauchemin a analysé la montée de ces groupes identitaires, femmes, communautés ethniques, homosexuels, etc., qui revendiquaient leur appartenance à la communauté politique au nom de leur identité particulière concrète, amenant donc les paradoxes qu'il a évoqués tout à l'heure. Le résultat de la mutation des rapports politiques qui s'en est suivi est ce qu'il appelle la société des identités. Mondialisation désincarnée allait donc de pair avec un multiculturalisme identitaire, contribuant conjointement à la crise de la communauté politique elle-même. Ces réflexions étaient importantes pour la question de la conscience historique des Québécois francophones. L'identité nationale, appuyée sur une conscience historique heureuse ou réconciliée avec elle-même, était la seule fondation possible pour relégitimer politiquement la construction d'un monde commun, l'articulation d'un vivre ensemble. C'est essentiellement ce qu'il a dit tout à l'heure dans sa présentation. Problématisée en ces termes, la question de la conscience historique des Québécois francophones devenait le problème central de la société québécoise elle-même. Ces réflexions ont légitimé ce que j'appellerais une grande thérapie identitaire, qui ne devait nous permettre de nous réconcilier avec notre passé. Elle devait nous permettre d'assumer, et cela dépendait des auteurs, notre héritage français ou notre héritage américain, notre héritage catholique ou notre héritage laïque, notre héritage libéral ou notre héritage conservateur, notre héritage d'ambivalence politique ou notre héritage républicain. Et la liste pourrait se poursuivre. À l'évidence, les chercheurs ne s'entendaient pas toujours sur ce « nous », même restreint pour l'occasion à la référence canadienne-française. Plusieurs héritages, difficilement réconciliables, traversaient notre expérience nationale et semblaient miner la cohérence de la conscience historique et même, pour ceux comme Jacques Beauchemin qui désiraient aller plus loin, la naissance d'un sujet politique national unitaire. Malgré ces désaccords, attribuables à des perspectives différentes, mais peut-être surtout à la difficulté considérable évoquée par Martin Paquette de dégager aujourd'hui le sens de l'histoire, ces études n'en ont pas moins eu une grande influence sur le débat public. Sans en faire une énumération exhaustive, soulignons rapidement les questions relatives à la réforme de l'éducation et à l'enseignement de l'histoire, à la Charte des valeurs québécoises et aux accommodements raisonnables, à l'immigration et au multiculturalisme, à la mauvaise conscience des souverainistes, etc. En outre, en 2012-2013, après un rapport sur la place de l'histoire nationale dans les départements d'histoire universitaire, écrit par Éric Bédard notamment, la question de l'identité québécoise était suffisamment débattue pour être intégrée dans la politique nationale de la recherche québécoise. Ainsi, on a annoncé un projet de chaire de recherche sur l'identité québécoise, laissant évidemment une large place à l'histoire nationale. Ces chaires ont toutefois été abandonnées, sans trop de cérémonie, par notre austère gouvernement libéral. La réforme du programme d'histoire nationale au secondaire est probablement l'héritage le plus concret de cette grande thérapie collective à laquelle nous avons été conviés. S'étendant sur près de 15 ans, après de nombreux rebondissements, le dossier a été confié à un comité formé de Jacques Beauchemin et Nadia Famihide, qui ont remis leur rapport, d'ailleurs fort intéressant, au début de l'année 2014. Cette réforme est actuellement en phase d'expérimentation pour une implantation à l'automne 2016. On peut légitimement se réjouir de tant d'attention pour la conscience historique des Québécois francophones et les appels pour une meilleure connaissance de notre passé. Comme la plupart des historiens et historiennes, et même plus officiellement en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut de l'Histoire d'Amérique française, je me suis réjoui des appels à un enseignement plus substantiel de l'histoire du Québec et à un meilleur financement de la recherche en études québécoises. Mais, cela dit, j'aurais dû mettre « mais j'ai écrit « cela dit », il n'en reste pas moins que cette problématique identitaire, telle qu'elle s'est développée depuis la fin des années 90, pose, selon moi, des problèmes importants en ce qui concerne le savoir historique et la question de notre rapport au passé. En témoignent, je crois, les nombreuses polémiques universitaires qui ont marqué cette réflexion sur l'identité nationale au cours des dernières années. Au-delà des conflits de personnalité ou d'allégeance politique, et même du problème de la définition des concepts, ces polémiques découlent probablement de la difficulté de penser les rapports entre l'histoire, en tant que savoir sur le passé, et la mémoire en tant que souvenir du passé dans la conscience collective. C'est d'ailleurs le grand mérite de ces réflexions sur la conscience historique que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir soulevé ces questions qui intéressaient peu les historiens québécois auparavant. Il me semble tout de même que la discussion sur l'identité, au fil des débats, a été de plus en plus articulée autour d'un problème central qui posait problème, c'est-à-dire le problème d'un héritage à conserver. En problématisant ici la question de la conscience historique, alors que l'identité nationale était présentée comme le seul rempart face à la destruction du monde commun, on engageait parallèlement la fonction sociale de l'histoire dans une démarche mémorielle de fidélité à cet héritage. Ainsi, comme le soulignait Jacques Beauchemin, pour ceux qui s'intéressaient à la société québécoise, il y avait une nécessité ontologique et première du sentiment d'appartenance. Une telle formulation du problème risquait de limiter grandement, je crois, le potentiel critique de l'histoire comme savoir, y compris pour une compréhension de l'identité nationale et de la conscience historique des Québécois. Beauchemin rappelait encore, il y a quelques années, ce ne sera pas un colloque s'il n'y a pas deux collègues de l'UQAM qui chicanent un petit peu. Beauchemin rappelait encore, il y a quelques années, que notre responsabilité première, en ce qui concerne notre rapport au passé, était de se porter à la défense des institutions que le temps de l'histoire a cristallisées. Cette affirmation semble peut-être aller de soi, mais elle est probablement intenable lorsqu'il s'agit d'envisager la production d'un savoir historique sur le passé. Pour démontrer les problèmes que soulève cette responsabilité première évoquée par Beauchemin, inutile de recourir aux interprétations marxistes ou féministes qui ont apporté, par ailleurs, d'importantes contributions et des contributions fondamentales à notre histoire québécoise et même à notre histoire nationale. Il suffit simplement, plutôt que de faire référence donc à ces interprétations marxistes ou féministes, il suffit simplement de rappeler que même chez les chercheurs inspirés par la problématique identitaire de l'héritage, il était très difficile de s'entendre sur ce qu'impliquait cette responsabilité première. Je pense notamment au débat, peut-être un peu interminable, sur la grande noirceur qui, plus souvent qu'autrement, ont mené à une critique des institutions associées à la Révolution tranquille. À l'évidence, la difficulté de déterminer un héritage partagé se répercutait sur les rapports que l'on pouvait avoir sur les institutions du passé, les institutions que nous avait léguées le passé. C'est pourquoi j'affirme, et là, c'est vraiment du point de vue du chercheur en histoire du Québec, c'est pourquoi j'affirme que nous avons davantage à gagner, en tant que chercheur, à adopter une posture inverse, soit l'exercice systématique d'un soupçon critique à l'égard des institutions, des normes et des valeurs du passé, comme du présent d'ailleurs. Qu'on se rassure, il ne s'agit pas de s'engager dans la destruction nihiliste de tout ce qui existe, mais tout simplement de nous rappeler que le pouvoir des institutions, et même des identités, repose essentiellement sur leur capacité à se naturaliser, à faire disparaître le mystère de leur existence historique. Et là, je pense à l'Église, je pense au marché, je pense à l'État-providence, je pense à la nation, je pense à la famille, je pense aux droits de l'homme. Toutes des choses qui s'imposent à nous comme une évidence et qu'on aurait avantage à se rappeler toujours constamment à quel point tout ça est né de circonstances historiques précises. Adopter ce soupçon critique ne veut évidemment pas dire que toutes ces institutions, ces normes, ces valeurs, ces identités sont politiquement illégitimes. Mais il permet à l'historien ou l'historienne de montrer qu'elles ont été produites par le travail des hommes et des femmes dans un contexte historique qui nous permet d'en saisir l'évolution. Ce faisant, il contribue à étendre le domaine du savoir historique et parallèlement à ouvrir le débat au sein d'une communauté politique trop souvent structurée autour de fausses évidences qui en limitent considérablement le potentiel démocratique. Quand on dit aujourd'hui qu'on ne peut rien faire parce que les lois du marché sont telles, voilà quelque chose que l'historien pourrait analyser, montrer à quel point le marché est une création historique, qui n'a rien à voir avec la nature humaine. C'est ainsi, je crois, que le chercheur ou la chercheuse peut le mieux contribuer à créer les conditions d'existence d'un monde commun au Québec. C'est ainsi, je crois, qu'il pourra contribuer pleinement à l'édification, dans un rapport critique à un passé respecté, à l'édification d'une communauté politique démocratique. C'est, au final, cet horizon qui justifie la pertinence du savoir historique. C'est là, dans notre rapport au présent et à notre avenir qui se profile, que réside, paradoxalement, la première responsabilité de l'historien et de l'historienne. Je vous remercie.
Donc, merci beaucoup à vous quatre et merci de votre très grande discipline qui nous laisse quand même une quarantaine de minutes pour discuter. Alors, il y a deux micros de chaque côté de la salle. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à vous déplacer.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Josiane Lavallée, historienne. J'étais très contente de vous entendre, Madame Barry, parce que depuis quelques années, nos séries, nos téléromans, même depuis plusieurs années, il n'y a plus d'espace et de temps. Ça se passe tout le temps durant l'été. On ne voit plus nos comédiens, bon, comme dans les téléromans des années 70-80, bon, durant l'hiver, on ne les voit plus fêter Noël ou fêter Pâques. Et c'est ça, j'ai vraiment eu le choc. Récemment, j'ai réécouté sur RTV La Petite Patrie, qui se passe dans les années 47-48, et on les voit lire les journaux, on les voit discuter d'actualités politiques, on le voit parler de la guerre de Corée, on parlait des missionnaires en Chine, les répercussions de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et je pense, oui, c'est vrai que, bon, peut-être acheter des manteaux d'hiver puis les faire tourner durant l'hiver, surtout l'hiver québécois qu'on a vécu, les comédiens, ça leur tente moins puis ça coûte cher, au niveau des costumes, du matériel. Mais je pense, notamment dans les téléromans, on pourrait minimalement les voir discuter d'actualité politique. Exemple, dans Unité 9, je crois qu'il y a quand même en prison qu'ils ont le droit de lire les journaux, ils regardent la télévision, on pourrait les voir discuter d'actualité politique, de qu'est-ce qui se passe. Et je me dis, en tant qu'historien, la question, c'est ça. En tant qu'historien, qu'est-ce qu'on peut faire pour dénoncer ça, pour alerter nos diffuseurs publics, Radio-Canada, puis TVA au niveau privé, pour leur dire qu'on souhaite avoir des séries, des téléromans de meilleure qualité et qui se passent pas juste en 2015. Là, on a l'impression, quand on regarde les téléromans puis les séries, que c'est toujours, que c'est figé dans le temps. Que c'est aujourd'hui, puis il n'y a rien d'autre.
Oui, bien, écoutez, moi, je ne suis pas à la télé, puis je ne suis pas dans le domaine des téléromans et des téléséries. Vraiment, je fais des séries documentaires à la radio, mais je pourrais vous dire que c'est probablement encore la même logique. Ça coûte très cher de faire des séries historiques, surtout à la télé, évidemment. Ça coûte cher déjà. Mes patrons me disent qu'à la radio, faire des séries documentaires sur l'histoire, puis moi, je les fais à peu près toute seule, là. Des fois, j'ai l'aide d'une recherchiste. Je me déplace, c'est moi qui interviewe les gens, c'est moi qui trouve les archives, c'est moi qui interviewe les historiens. Mais à la télé, quand on parle, si on fait... Puis j'en parlais avec Claude Legault récemment, qui a fait la narration de la série que j'ai faite sur la Première Guerre mondiale, parce que c'est un féru d'histoire et d'histoire militaire, dont on parle peu, d'ailleurs, au Québec. Ça fait partie d'une des... On parle peu d'histoire militaire, on parle peu d'histoire du sport aussi. Mais ce que je voulais dire par là, lui me disait, parce qu'il adore l'histoire, il me disait, écoute, on ne peut pas faire de grandes séries à la Downton Abbey ici, parce qu'on n'a pas l'argent pour la faire. Ça coûte très cher. Je pense que la raison pour laquelle on a autant de séries qui portent sur le présent, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que de faire des séries sur l'histoire où il faut que tu aies des... Le service du costumier est disparu, c'est pas compliqué. Alors, ça prend des couturières, ça prend des gens qui dessinent les costumes, qui les font. Les coiffures, c'est la même affaire. Alors, on est dans une logique en ce moment commerciale. Il faut que ça rapporte. Puis ça rapporte pas de faire des séries historiques qui se passent il y a 100 ans.
Une question de ce côté-ci, puis ensuite, Éric.
Laurent Desbois, du Rassemblement pour un pays souverain. Mon questionnement s'adresse à Mme Linda Barry de Radio-Canada. Vous aviez dit en entrée de jeu qu'on vous avait donné le mandat de provoquer.
Non, pour ce qui c'est un clin d'œil que je faisais à Robert Comeau, là, c'est pas vrai.
En tout cas, pour ce qui me concerne, vous avez réussi.
Ah oui, bon, allez-y, chicanez-moi, là.
Bien, je m'excuse de peut-être tirer sur le livreur, mais vous êtes tout de même le livreur. Je vais remettre ça dans le contexte de Lionel Groulx, qui est le but de cet atelier, et on sait que lui se posait de sérieuses questions historiques sur l'histoire du Canada, plus particulièrement notre rôle dans ce beau Canada-là et de la Constitution qui nous a été imposée, et aussi sur le rôle et le sort des Franco-Canadiens dans ce Canada. Vous avez passé sous silence la mission de ce Radio-Canada-là, qui est la promotion du Canada de son bilinguisme et de son multiculturalisme. Je vous rappelle aussi que ça a été incarné par M. Trudeau et M. Harper, qui est d'un autre parti, a la même mission, c'est de débarrasser Radio-Canada des séparatistes. C'est pas sous silence lorsqu'on parle d'histoire. Ça prend la forme, vous avez parlé à deux reprises, dans votre exposé et aussi dans la question précédente, que ça coûte très cher. Ça n'a pas, je vous rappelle, empêché Radio-Canada de faire une longue tirade historique sur l'épisode historique de 1812. Ouais, ça, on s'apprête
c'est,
maintenant...
C'est pas mes décisions, ça, vous savez, monsieur.
Pardon?
C'est pas moi qui ai pris ces décisions.
Je ne tire pas sur le livreur. Ça n'empêche pas Radio-Canada de nous préparer psychologiquement cet été à une longue série historique sur ce fameux John A. McDonald, qui, rappelons-le, était un anti-francophone, pour être poli, un anti-métis, un raciste contre les Autochtones et même les Asiatiques. C'est très historiquement correct, ça.
Et ça va être, excusez-moi, ça, j'ai pas entendu parler de cette série-là sur John A. McDonald. C'est diffusé à CBC.
J'ai bien dit qu'on nous prépare. On nous prépare et s'est annoncé que le thème de cette année serait John A. McDonald. Mais vous vous informerez peut-être, je erre peut-être.
Le deuxième anniversaire. Oui, ça va être le 150e de la Confédération.
Oui, oui, on incarne M. McDonald. Qui, en passant, ne déplaise à certains. John A. McDonald, pour tout ce que ça veut dire.
Est-ce que vous avez une question adressée à Mme Barry
spécifiquement? OK, je conclue.
S'il vous plaît.
Je conclue. John A. McDonald, je vous le rappelle, était un orangiste. Et je veux juste vous signer un autre point. Robert Guy Scully, qu'on connaît très, très bien ici, qui est disparu avec l'épisode historique des commandites, lorsqu'il parle dans le Canada, CBC anglais, s'appelle Robert Scully, et ça dit tout. Mm-hmm. Le Guy a disparu.
Oui, est-ce que vous voulez intervenir?
Ben, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je peux comprendre votre opinion, mais les artisans que nous sommes, en tout cas moi comme artisane qui suis à Radio-Canada depuis à peu près 25 ans, je sais que ça fait partie du mandat de Radio-Canada de promouvoir le multiculturalisme et tout. Mais nous, on travaille à informer le public. Et quand on produit des séries historiques, c'est ce qu'on tente de faire. On n'a pas, Hubert Lacroix n'est pas en arrière de nous. Stephen Harper n'est pas en arrière de nous en train de nous dire tu vas faire ci ou tu vas faire cela. Il y a des décisions politiques qui se prennent. Oui, on a voulu qu'on parle de 1812. On en a parlé. Ça n'a pas été mauvais d'ailleurs parce que c'était pas une guerre qui était particulièrement connue. Je pense que les auditeurs sont capables de départager ce qui est. Enfin, je comprends votre opinion, là, mais je ne suis pas responsable de toutes les décisions qui se prennent à Radio-Canada. Merci.
Éric?
Oui, Éric Bédard. Ouais. Merci beaucoup pour vos interventions très pertinentes et intéressantes. Je voudrais revenir sur le clivage établi par Martin Paquet. Il dit qu'il y a un côté de la mémoire qui demande une reconnaissance, qui demande une justice, et il y a l'histoire, qui est la vérité, avec un V majuscule. Et je trouve que tu établis un fossé trop étanche entre les deux. J'en veux pour preuve le fait que beaucoup d'historiens de l'académie, de l'université, sont clairement engagés. Et puis, tant mieux. Ils sont féministes, ils sont de gauche, ils sont bien sûr dans la vérité aussi. Sauf que ce que je sens souvent dans ce clivage, c'est qu'il y a la mémoire et les nationalistes, là, hein, et leur idéologie puis leur patente, là. Et il y a la science. Il y a la science et la vérité. Et pourtant, du côté de la science et de la vérité, ben, on le sait très bien qu'il y a des gens très engagés. Et moi, je trouve ça très bien. Et donc, ce clivage-là, je le remettrai un peu en question. Je pense que c'est plus poreux que tu le montres. Je pense que la mémoire féconde l'histoire, l'histoire féconde la mémoire, et que c'est une dialectique, pour utiliser un terme savant. Maintenant, pour ce qui est de ce que disait Martin Petitclerc, il disait qu'il faut conserver cette posture critique. Je suis absolument d'accord avec lui. Et il s'interroge sur ces gens qui souhaitent préserver le nous collectif, l'histoire nationale. Est-ce que ces gens-là, au fond, réclament la fidélité? Réclament la fidélité et donc manquent de posture critique. Alors, en ce qui me concerne, moi, l'histoire du Québec et du Canada français, toute l'histoire du Québec et du Canada français, de Médéric Langteau à Georges-Étienne Cartier, est mon histoire. J'embrasse tout. J'hérite de ça. Hein. Donc, je n'étudie pas que Cartier, je n'étudie pas que Langteau, j'étudie les deux pour les comprendre, et je suis sûr que tu fais la même chose, et on fait, je crois, un peu tous la même chose. Nous héritons de tout. Et nous ne cherchons pas, en tout cas en ce qui me concerne, je crois, à éliminer un héritage, en valoriser un autre. On cherche, on hérite de tout et on tente de tout comprendre en même temps. C'est ambitieux, c'est peut-être pas possible, et peut-être que des fois le jupon dépasse. Mais c'est ce qu'on tente de faire, je pense tous, et honnêtement, c'est ce que je sens moi, en tout cas, quand je te lis, quand je vous lis. Et je dirais, je termine, Karine, je veux pas être trop long, je dirais que la posture critique, et tu as évoqué, c'est très caractéristique, tu as dit la posture critique, le marché, tu aurais pu dire le patriarcat, on aurait pu dire d'autres institutions, il faut conserver cette posture critique. Tu as absolument raison. Tout ça, toutes ces choses-là sont des construits historiques. Il faut constamment revenir là-dessus. Et je pense que, tu sembles dire qu'au fond, cette posture critique peut-être manquerait à ceux qui adhèrent à ce grand récit national, puisque c'est la fidélité. Eh bien, moi, je pourrais te répondre que, du côté de ceux qui ont été, comme Jacques Beauchemin, comme Mathieu Bock-Côté, comme cher Philippe Courtois et d'autres, qui ont souhaité qu'on préserve l'histoire nationale. Il y a eu une posture extrêmement critique sur le multiculturalisme, sur le pluralisme normatif, comme l'appelle Jacques Beauchemin, pour dire aux gens, aux Québécois, à nos compatriotes et à nos contemporains, tout ça aussi est une invention, tout ça aussi est une idéologie, avec un objectif, avec une mission. La posture critique, elle est des deux côtés, je crois. Évidemment, il y a des objets différents, il y a des sensibilités différentes, mais je pense qu'elle est des deux côtés. Et lorsqu'on a vu ce programme d'histoire de secondaire 4, qui a été proposé en 2006, on voyait là le jupon multiculturel dépassé, la volonté de gommer des dimensions plus conflictuelles et plus politiques. Et cette espèce d'aventure collective dont parlait Jacques, qui était assez absente et avec un consensus. Donc voilà, je m'arrête ici. C'était quelques commentaires en vrac, mais merci beaucoup.
Est-ce que vous souhaitez réagir, Martin?
Bien sûr, Éric, les Français peuvent apparaître poreuses, mais là, on parle de discipline. Et ça, c'est un élément qui est important là-dedans. Cette discipline-là s'est constituée à travers le temps avec une exigence d'impartialité qui est importante. Bien sûr, on peut dans notre pratique quotidienne, dans notre sensibilité qu'on peut avoir en termes de citoyens, intervenir de manière partisane là-dessus. Cependant, il y a une exigence je dirais qu'il est présent de la part des lecteurs qui nous lisent. Quand ils nous écoutent en tant que tels, ils s'attendent de la part de nous autres que nous ayons une position, pas une position, mais une opinion qu'on appelle vraie, éclairée et vérifiable. C'est-à-dire, ils s'attendent de nous qu'on ait une position qui soit, entre guillemets, vraie. C'est un idéal, ça va de soi. Un idéal, comme tout idéal, c'est comme la quête de l'étoile, ainsi de suite. On n'atteint jamais vraiment l'étoile, mais on tend constamment vers cela, en tant que tel. Et c'est une attente dont les historiens, justement, tentent d'atteindre. On ne traverse plus. Et lorsqu'on parle de la mémoire, je ne précise absolument pas la mémoire, parce qu'au contraire, je considère que c'est un élément important, justement, de contact avec la réalité que nous avons, parce que c'est des exigences mémorielles qui sont présentes. Les questions qui se posent dans le domaine de la mémoire vont ensuite influencer le travail des historiens en tant que tels. Et pendant des siècles aussi, le rapport entre histoire et mémoire était beaucoup plus proche là-dedans. Mais le développement de la discipline, d'un côté, a insisté justement sur cette exigence de vérité. Et sinon, c'est le règne du doute. Et le doute, pour le doute, ça donne lieu à un pyrrhoniste de mauvaise loi, quant à moi. Ça devient lieu à du scepticisme à outrance en tant que tel. La pensée critique n'est pas l'expression de doute pour le doute en tant que tel. Il y a les éléments qui jouent en termes de critères de validation de ces données. Et ça, c'est un élément qui me semble important. Donc, comme historien, là, je peux pas dire que les universitaires... Il y a des historiens de droite, des historiens de gauche, il y en a qui sont rouges, bleus, caille, et ainsi de suite. Et ça, c'est, comme citoyen, ça va de soi. Mais cependant, je pense que lorsque nous travaillons comme historiens, lorsque nous intéressons à un objet d'étude là-dedans, nous voulons, en tant que tel, poursuivre cet idéal de vérité.
Martin, est-ce que tu souhaites intervenir?
Merci, Éric, pour... Oui? Merci, Éric, pour ta question. En ce qui concerne, en fait, une chose que j'ai toujours, trouvée intéressante dans ces réflexions-là sur l'identité, c'est ce projet de renouer avec une histoire globale. On sait de plus en plus, je crois, qu'il est très, très, très difficile de saisir le sens de l'histoire avec un grand S, et même, je pense, de retrouver le sujet avec un S majuscule de l'histoire. Je pense qu'on est dans un contexte qui rend les choses très, 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 très difficiles. En même temps, je pense que c'est une aspiration scientifique légitime, un défi pour l'historien, et je suis tout à fait d'accord avec la critique qui a été faite d'une histoire sociale qui se complaisait dans une sorte de particularisme et qui ne faisait que finalement être le portrait d'une société pluraliste qui concevait plus ou moins appelons-le le multiculturalisme libéral comme l'horizon ou la fin de l'histoire, en fait. Et donc, ça, je partage tout à fait ça. L'histoire sociale a réfléchi beaucoup à ces questions-là. Je pense qu'il y a là une tradition qui me semble vraiment importante de préserver, notamment parce que, et là, je pense que ce déplacement au sein de l'académie, des chercheurs qui ont abandonné un petit peu des projets de recherche qui s'ancraient dans ces réflexions sociologiques, de l'histoire sociale, tout ça, ont abandonné un peu ça. Et Gérard Bouchard est peut-être l'exemple le plus évident. Hein. Au début des années 90, il a publié un des ouvrages majeurs de l'histoire québécoise sur les arpents de neige. Ouais, c'est ça. Quelques arpents d'Amérique, ouais, c'est ça. J'ai oublié son... Ça remonte quand même à loin. Et tout de suite après, ben, c'était devenu la question identitaire, et tout ça avait été un peu balayé de côté. Et donc, à partir de là, c'est dans cette problématisation de l'identitaire, et je ne veux pas reprendre des aspects, mais il m'a semblé que en arrimant si étroitement le problème de l'histoire nationale à la reconstitution d'un monde commun, à la découverte ou la redécouverte d'un sujet collectif agissant dans l'histoire, il me semble qu'on en est arrivé à réduire considérablement ce qu'on pouvait étudier comme notamment dans le domaine de l'histoire politique. Et ça, je t'ai fait un peu ce reproche-là, tu le sais. Et à partir de là, ce qui semblait être la voie à suivre pour les historiens, c'était de refaire une sorte d'histoire des idées où chaque intellectuel du passé, chaque intellectuel notamment nationaliste du passé, incarnait à lui seul le grand sujet collectif. C'était la manifestation, si on peut dire, de ce grand sujet collectif agissant dans l'histoire. Et en ce sens-là, ben, je pense que ça a débouché sur des études fort intéressantes. Je pense à la tienne sur les réformistes, qui nous en apprennent beaucoup. Mais en même temps, où le chercheur s'interdit de poser des questions difficiles à ces intellectuels-là, ne serait-ce que parce qu'au départ, il y a cette sorte de communauté d'appartenance postulée, cette sorte de fidélité, cette sorte de tradition qui fait en sorte que on ne peut pas vraiment s'attaquer à ça au risque de briser, en fait, le récit de l'histoire nationale, le récit de ce sujet national que l'on tente de dévoiler. Et donc, en ce sens-là, la problématisation, me semble, nous amène dans un... oriente, mais je dis pas que je suis la vérité pure et la science pure et que toi t'es un idéologue, c'est absolument pas, c'est vraiment pas mon... Mais je dis qu'il y a quand même quelque chose dans votre problématisation de l'identité qui vous empêche à un moment donné de poser des questions sur au passé.
Question ici, oui.
Marie-France Charette de la Fédération Histoire Québec. Moi, je suis ici parce que parler de production et de diffusion de notre histoire, quand on parle des sociétés d'histoire et des organismes en patrimoine qui sont membres du réseau chez nous, ça remonte avant 1900, où est-ce qu'on, entre autres, il y a quatre ou cinq sociétés au Québec qui ont été fondées avant 1900, dont la Société historique de Montréal, et il y en a d'autres. Et je veux amener l'apport des sociétés d'histoire dans l'établissement de cette grande histoire-là. La Fédération regroupe 260 organismes. On a dénombré 42 000 membres qui utilisent et qui voisinent et qui fréquentent les organismes en patrimoine. Ce grand réseau-là collectionne, publie, diffuse depuis des années. Et on l'oppose souvent, ce réseau-là, amateur, bénévole, souvent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens très lettrés, informés, historiens et tout ça qui gravitent autour de ces sociétés-là, de ces organismes-là. Mais on oppose souvent le professionnalisme des sociétés versus, justement, les professionnels de l'histoire. Donc, la Fédération, évidemment, nous, on essaie de professionnaliser et de donner des outils à nos sociétés membres pour, justement, rendre accessibles les collections et l'ouverture des archives aux chercheurs et tout ça. Ce qui représente aussi, si on veut, la longévité, c'est ce qui va garantir la longévité des sociétés d'histoire. Et on apporte aussi une aide à leur vie associative pour être sûr que la relève est là et que les choses sont faites dans l'ordre. Alors, mes questions, voilà, est-ce que la connaissance de son histoire locale et régionale qui forme justement cette identité et ce sentiment d'appartenance ne serait pas le premier pas vers justement cette histoire nationale où tout le monde, d'après nous, c'est le cheminement naturel vers justement une histoire nationale. Étant donné qu'on sait d'où on vient, on a ce sentiment d'appartenance et est-ce que par après, on ne voudra pas justement recoller les morceaux et voir c'est quoi l'histoire nationale et s'identifier à cette histoire-là? Et mon autre question, c'était si vous aviez 200 organismes en histoire et en patrimoine pour aider et pour travailler avec les chercheurs, à quoi vous attendriez-vous de ces organismes-là? Voilà.
Je ne sais pas qui veut répondre à ces deux grandes questions-là.
Moi, je peux répondre à certains éléments. Je considère que c'est particulièrement important pour une raison à peu près comme Fernand Dumont mentionnait à l'époque, c'est que lorsqu'il parlait des centres de référence, regroupement par référence, en disant c'est une question aussi d'échelle. Le travail qui est fait par les historiens à l'échelle locale, en termes d'habilitation citoyenne, en termes d'appartenance, lorsque vous avez un enjeu, par exemple, relatif au patrimoine, lorsque vous avez un enjeu, une étude monographique qui se fait, par exemple, sur un village, une ville, un quartier, et ainsi de suite, c'est un travail qui est particulièrement important là-dedans et qui contribue justement à nourrir, d'une part, à l'échelle locale, le sentiment d'appartenance, mais aussi à éclairer les citoyens en donnant des connaissances qui sont pertinentes. Et ce que Dumont disait à un moment donné, quand il parlait justement du regroupement par référence, quand vous avez qu'est-ce qui unit des individus qui peuvent vivre à Saint-Bruno-de-Montarville, à Baie-Comeau, ou encore à Rouyn-Noranda, qui ne se connaissent pas par des liens de parenté, qui ne se connaissent pas par des lieux de voisinage. Et là, c'est cette idée de faire société par l'apparition d'une référence là-dedans. Donc, le travail que vous faites correspond à des idéaux éthiques qui sont particulièrement importants. C'est-à-dire, vous allez documenter, vous allez faire une critique des sources, vous allez constituer un corpus, vous allez écrire une étude, mais ce travail-là est important. C'est une pierre à l'édifice de la connaissance, mais c'est aussi une pierre à l'édifice de la mémoire en tant que telle. Et cette mémoire qui se constitue comme une référence de manière plus globale. Je vous dirais que l'universel est souvent dans le particulier. Il y avait cette expression, justement, que qu'est-ce que l'universel? C'est justement le local moins les murs. Et ce local, justement, nous permet de comprendre à la manière, justement, d'un élément d'un écosystème de comprendre, justement, l'ensemble de ce qui est, par exemple, la référence nationale, de ce qui est la référence sociale en tant que telle. Peut-être quelque chose à ajouter là-dessus? Non?
Je ne suis pas historien.
Et sociologue. Je nous étudie depuis longtemps.
Martin est inquisitif.
Je vous observe. Animaux étranges.
Il y avait Mme Barry qui voulait intervenir là-dessus.
Ben moi, Madame, je voudrais vous dire merci parce que pour avoir fait affaire avec beaucoup de sociétés d'histoire, quand j'ai écrit Nos Glorieuses, plus de 100 ans de hockey féminin au Québec, tous ces gens-là travaillent souvent comme bénévoles, sont des passionnés d'histoire et sont. Moi, j'ai recueilli beaucoup de lettres, de cartes postales, de documents. J'ai passé des mois ici aux Archives nationales, dans les microfilms, dans les journaux pour recueillir de l'information. Mais tout ce que vos sociétés d'histoire m'ont procuré, de photographies, de cartes postales, de lettres, de documents d'époque, m'ont été extrêmement précieux. Alors, je suis très reconnaissante à l'égard de gens comme vous qui, partout au Québec, diffusent l'histoire, souvent sur une base locale. Mais je trouve que ce sont des sources, oui, comme je ne suis pas une historienne, encore une fois, professionnelle, mais quand on fouille pour raconter l'histoire, on va dans les journaux, dans les microfilms, dans les magazines anciens, dans les livres anciens, mais vos sources sont extrêmement précieuses. Merci.
Oui, pour reprendre un peu ce qui vient d'être dit, oui, c'est très précieux et je dirais que pour ma part, qui a fait de l'histoire, qui a développé des méthodes de recherche, je dirais de l'histoire sociale, qui s'intéressait à la vie populaire et donc aux contextes locaux, et d'essayer de penser en quoi ces contextes locaux-là ne sont pas simplement l'identité nationale en miniature, mais sont aussi des façons potentiellement alternatives de vivre la vie en collectivité. Et à partir de là, ils peuvent nous en dire non seulement sur la vie de la collectivité, mais peuvent nous en dire aussi sur la façon dont la collectivité nationale est, quelles sont ses caractéristiques originales ou pas, jusqu'à quel point cette identité nationale se traduit effectivement par un conformisme local ou non, s'il y a des formes de résistance, des formes de contestation. Hein, c'est souvent par là, par exemple, par une étude fine des contextes locaux, et encore là, les sociétés d'histoire locale ont un rôle à jouer là-dedans, mais que l'on sait si les demandes de l'Église sont respectées localement, sont respectées dans les pratiques quotidiennes. Et ça, c'est des choses, c'est pas simplement, des fois on le dit d'une façon péjorative, c'est pas seulement de la petite histoire, au contraire, c'est de la grande histoire en miniature. Et c'est quelque chose qui est vraiment crucial, je pense. Je salue le travail des sociétés d'histoire locale.
J'ajouterais peut-être un point supplémentaire, c'est aussi un élément d'habilitation citoyenne. Ce qu'on remarque souvent dans les associations, les sociétés d'histoire locale, c'est le premier lieu dans lequel les citoyens dans les municipalités vont faire pression, vont intervenir dans l'espace public. Vous avez, par exemple, l'arrondissement historique dans votre quartier. Vous avez, par exemple, une maison familiale qu'on veut sauver, et ainsi de suite. Donc, toutes ces enquêtes, point de vue patrimonial, donnent lieu, justement, à une action politique. Et cette action politique, le fait, on va se présenter vis-à-vis la municipalité, on va regrouper les citoyens, et ainsi de suite. Donc, non seulement ici, c'est la constitution d'un corpus de connaissances qui est particulièrement important, mais c'est aussi une façon de participer à la vie de la cité. Et la cité au sens grec, la communauté politique de manière générale. Donc, c'est d'où l'importance. C'est un travail qui est méconnu ici. Parce que vous faites un travail qui est extrêmement de terrain, mais ce travail de terrain est essentiel pour le travail, à la fois, vous faites partie de la grande famille des historiens, d'une part, mais aussi le votre apport à l'ensemble de la société.
Si je peux me permettre, avant de donner d'autres questions, votre deuxième question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour vous, d'une certaine manière. On a parlé, travail avec les sources, bon, des choses comme ça, mais il y a aussi amené des questions qu'on se pose pas toujours dans l'édifice universitaire. On travaille dans une discipline constituée, on en a parlé. Il y a cette tension qu'on a vu émerger dans toutes les communications ce matin entre la demande de mémoire et de fidélité, puis la recherche de vérité. Et les sociétés historiques nous ramènent à cette tension-là de manière régulière, nous amènent une complexité d'interrogation, posent souvent des questions auxquelles les historiens professionnels n'ont pas nécessairement l'habitude de s'intéresser. Et nous oblige, bon, la majorité des sociétés historiques travaillent beaucoup dans une dynamique de fidélité, de mémoire, de patrimoine. Et en posant des questions aux historiens, ça nous oblige à les aborder, ces questions-là, et à voir, en fonction de nos méthodologies, en fonction de nos sources, comment est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là, comment on peut résoudre d'une certaine manière la tension entre la vérité puis la recherche de fidélité. Donc, je pense que la société, les sociétés d'histoire servent d'interface, finalement, puis garantissent aussi une certaine pertinence sociale aux historiens dont Jacques Beauchemin parlait plus tôt. Je laisserai la parole à Robert Comeau, peut-être.
Moi, j'ai bien aimé le débat de fond, en fait, entre histoire, science, puis la mémoire. C'est comme si, d'un côté, Jacques Beauchemin nous avait parlé de la mémoire fort importante, et puis, de l'autre côté, Martin, lui, nous dit la science, la recherche de la vérité, l'esprit, en fin de compte. Moi, j'aurais aimé que Martin explique peut-être plus le rapport de la mémoire. Et ce qui m'amène à ce... J'aimerais qu'on soit plus explicite sur ce débat-là, qui est fondamental et qui explique qu'aujourd'hui, il y a très peu d'historiens universitaires pour parler de notre histoire. Parce qu'on est allergique à l'expression « notre histoire ». On fait le mot « notre », j'ai bien compris que ça faisait peur ou que les historiens universitaires sont assez allergiques. On m'a dit de changer le titre, que le mot « notre histoire », ça faisait trop mémoire, ça faisait trop dépasser. Et ce qui me frappe aussi, c'est que même dans le débat sur l'enseignement de l'histoire, pourquoi les didacticiens ont pris une si grande place, c'est aussi le silence puis le retrait, je dirais, des universitaires. Parce qu'eux autres font de la science, et je pense que l'opposition entre mémoire et science ou mémoire, tel que tu l'as présenté, Martin, c'est trop absolu, c'est trop radical. Depuis les travaux d'Antoine Prost, il y a plusieurs années, on en est venu à dire que la mémoire, c'est sûr que c'est déformant. C'est un rapport déformant à la réalité, mais on peut pas opposer de façon aussi radicale la dimension mémorielle. Et je pense que dans l'enseignement de l'histoire au niveau secondaire, l'histoire, c'est pas juste l'histoire scientifique à la manière universitaire. L'histoire scolaire a aussi d'autres fonctions. Et il faut pas laisser ça aux didacticiens. Je pense qu'ils sont pas les mieux placés pour parler de ça. Et c'est ça mon constat après un certain nombre d'années dans l'enseignement de l'histoire. C'est le peu de préoccupation des universitaires qui enseignent pourtant à des futurs enseignants de programmes d'enseignement de l'histoire, mais ils se préoccupent pas de l'enseignement de l'histoire. Je l'ai vécu assez étroitement comme directeur de programme. Les étudiants du BES, là, du bac en enseignement, c'est négligeable. L'important, c'est nos brillants étudiants qui vont nous aider à la recherche. Alors moi, c'est un peu ça, en mettant à l'ordre du jour l'importance de la vulgarisation et de la diffusion, j'aurais aimé que la salle soit pleine d'universitaires. C'est pas ce que je constate, ça me déçoit un peu. Et j'aurais aimé l'explication, parce que c'est ça l'explication, c'est que les universitaires se spécialisent dans leur champ de recherche, mais toute l'autre dimension, appelez ça mémoriel ou identitaire, le mot identitaire est dit d'ailleurs avec une certaine prudence, hein, on emploie le mot identitaire comme si c'était presque, je mets trois petits points de suspension. Alors, j'aimerais ça entendre, Martin, sur cette autre dimension que la science.
Ben, Martin, pas une question, hein?
Martin, toi.
Donc, première question.
Petit Clair.
Je vais préciser un élément. Un élément, alors.
Mais il veut répondre pareil. Il veut répondre pareil.
J'avais précisé un élément, Robert, parce que là, il y a une méconnaissance, c'est ce qu'on entend par science, hein, là-dedans. Et je vais donner un exemple que Yves Gingras pourra bien corroborer, c'est ce que John Creech mentionnait concernant la construction de la bombe atomique, OK, dans laquelle, puis c'est un phénomène qui est présent dans le cadre, justement, des historiens. C'est-à-dire, au début, c'est une demande politique qui est faite avec Teller, puis il va chercher Einstein pour une signature, puis ainsi de suite, puis Oppenheimer. Il dit qu'il faut battre les nazis, il faut construire la bombe atomique, ainsi de suite. Et progressivement, ce qu'il observe, c'est que les scientifiques sont mis à étudier, ils sont devenus, comme on dit en anglais, des « problem solvers ». Ils sont devenus des super spécialistes. Ils ont perdu cette connaissance politique, l'intention politique originelle. Puis là, ils se sont mis à voir, mais c'est intéressant de voir justement les électrons, les photons, la fusion, ainsi de suite. Ils ont analysé ce problème-là. Et lorsque la bombe a éclaté pour la première fois, bon, Oppenheimer va dire, à un moment donné, là, il se rend compte, c'est quoi en tant que tel. C'est un peu le problème de l'historien universitaire dans le... Et puis là, évidemment, l'historien de l'université, il faut faire attention. Je parle de l'enseignement de l'histoire. Pour y avoir participé à l'enseignement de l'histoire également, je disais que c'était une préoccupation qui était importante. Plusieurs de nos collègues qui sont ici ont eu une intervention qui était présente. Mais on attendait beaucoup plus les didacticiens, parce qu'évidemment, les positions qui sont tranchées sont des positions qui sont beaucoup plus populaires. Hein. Donc, quand tu arrives avec une position nuancée, tout de suite, là c'est, ça passe mal dans les médias là-dedans. Mais plusieurs des historiens universitaires ont tendance à se réfugier dans la conception de l'histoire comme un problème en tant que tel. Un problème que, ah, c'est intéressant à étudier, on voit ça sur la plaquette du laboratoire en tant que tel, sans tenir compte du contexte social et de la demande sociale qui est là. Une demande sociale qui est une demande qui est fondée sur la pertinence. Donc, pourquoi qu'on s'intéresse désormais à l'histoire des femmes? Parce que c'est une pertinence sociale, ça. Pourquoi on s'intéresse à l'histoire nationale? Parce que c'est une pertinence sociale, ça. Sinon, on pourrait très bien faire la collection de timbres, devenir numismate, ainsi de suite. Puis c'est tout à fait légitime en soi, c'est intéressant. Mais la question de la pertinence se pose de manière différente ici. Là, c'est pas une question de mémoire, c'est une question de conception de la science, une conception de la science qui est beaucoup plus ouverte, parce que nos concitoyens s'attendent de nous, en tant que tels, qu'on leur dise quelque chose qui est vrai.
Oui, je peux me tourner?
Martin?
Oui, je ne vais pas développer davantage, mais là, je vois Yves qui est là.
Tu veux prendre la parole?
Non. Oui, donc, on a... Oh, je n'ai pas de temps pour ta question. Non, mais rapidement, quand même, deux, trois petites choses qui, je crois qu'il faut préciser. Là. Je suis évidemment d'accord avec le fait que le programme d'histoire devrait relever des historiens avant tout et non pas des didacticiens. Donc ça, je pense que ça n'a jamais vraiment, en tout cas, ça, personnellement, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Tu poses une bonne question, Robert. Pourquoi les historiens, et je le déplore, pourquoi les historiens ne se sont pas engagés là-dedans? En même temps, je te retourne la question. Comment la coalition pour l'histoire a réussi à ne pas faire appel à tout le monde? Et comment la coalition pour l'histoire a réussi à ne pas réussi, en fait, à créer un consensus sur ces questions-là? Je pense que la coalition pour l'histoire a aussi des réflexions à faire de son côté. Donc ça me semble être un aspect qui me semble quand même important. Et donc là, on entre dans des... Je pense dans des débats peut-être un peu idéologiques ou un peu, et je pense pas que ce soit le bon moment pour en discuter, mais je pense qu'il y a ces enjeux politiques aussi là qui ont été un petit peu, je pense, qui ont nui à la cause de l'enseignement de l'histoire au secondaire. Pour ce qui est des rapports entre l'histoire et la mémoire, j'assume une posture critique à l'égard de l'ensemble des mémoires, et ce que je reproche, ce n'est pas tant le problème de la mémoire nationale, en fait. Je dis juste que on doit être aussi critique de la mémoire nationale qu'on l'est de la mémoire des femmes, de la mémoire. Et donc, je pense qu'il y a, là, disons, un défi pour la communauté des historiens, qui d'ailleurs, pour revenir un petit peu à cette question de l'appartenance et du rapport à la mémoire, mais bon, il y a quand même un problème, je pense, et là, peut-être Jacques ne sera pas d'accord avec ce que je dis, mais on peut critiquer la société des identités, dire que tout le monde intervient dans la société au nom de son expérience, disons, personnelle ou collective particulière, et ainsi refuse en quelque sorte de s'engager dans la reproduction d'une communauté politique plus large. En même temps, je me dis que si on entre dans la communauté scientifique au nom de notre sentiment d'appartenance à l'identité nationale, ben on revient qu'on reproduit en quelque sorte à l'intérieur de la communauté scientifique une communauté des identités, et ça me semble être quelque chose qui pose problème, parce qu'à partir de là, ben, est-ce que seulement les Québécois peuvent faire l'histoire, vraiment faire l'histoire des Québécois, parce qu'ils ont cet attachement qui est préalable, en fait? Est-ce que les femmes ne peuvent seulement que faire l'histoire des femmes parce qu'elles ont cet attachement préalable? Et donc, en ce sens-là, on entre dans des contradictions qui me semblent être être très lourde de conséquences pour la connaissance en histoire. Cela dit, je suis prêt aussi à reconnaître mes torts, mais là, je préfère la posture du critique que celle d'être critiqué.
On va prendre quelques minutes pour une dernière question. Yves Gingras qui attend depuis longtemps, donc je te cède la parole.
Pas de souci, la discussion est très intéressante. Mon commentaire, c'est pour soulever un aspect qu'on n'a pas discuté, mais au moins je vais le lancer. C'est qu'on a bien insisté avec raison que le fondement de la discipline historique, c'est le regard critique. Mais bien sûr, critique, faut s'entendre sur un mot, là. Ça veut dire critique au sens de Kant, la critique de la raison pure. C'est un regard distancié et critique qui remet effectivement en cause tout ce qui est acquis et donc surtout et avant tout la mémoire. C'est ça la fonction. Thucydide le faisait directement. Donc, en Grèce ancienne, ça a été compris et accepté, et c'est ce qu'on continue à faire avec des outils nouveaux. Ce qui est nouveau actuellement depuis une quinzaine d'années, qui est exacerbé depuis au moins 10 ans, c'est le fait que, justement, le regard critique de l'historien vient affronter la multiplicité des identités qui veulent s'imposer et imposer leur mémoire. Mais imposer leur mémoire sur la place publique, ça veut dire que l'historien critique, maintenant, se fait de plus en plus attaquer, et que les politiques des trois conseils qu'on met sous le couvert des politiques d'éthique, si on lit attentivement, limite de plus en plus la liberté non seulement des historiens, mais des anthropologues, d'étudier avec une distance critique. On ne peut que penser à un de mes collègues qui écrit un livre très important sur l'histoire des Autochtones pour se voir ensuite recevoir une lettre de je ne sais plus quel grand chef qui, lui, n'était peut-être pas d'accord avec l'image. Donc, l'affrontement actuel que les historiens auxquels ils doivent réfléchir pour savoir comment s'en prémunir. On a connu, bien sûr, l'histoire de la biographie de Rona qu'on a voulu interdire de publication parce que le conseiller de Duplessis était présenté sous une image qui n'était pas la sienne. C'est allé en cours. Mais aujourd'hui, cette idée de contrôle de la mémoire rappelle d'autant plus l'importance de distinction analytique entre mémoire et histoire. On ne peut pas, sous prétexte de relations dialectiques entre A et B, oublier la distinction entre A et B. C'est crucial. Qu'à la frontière, les choses soient floues, tout le monde le sait. Mais si au nom du flou, on commence à mélanger des concepts comme mémoire et histoire, on ne comprendra pas que des groupes organisés, que ce soit les Autochtones, que ce soit les immigrants, que ce soit les Juifs de Montréal, peu importe, que ce soit le Bnaï Brit qui veut contrôler la mémoire, c'est leur fonction sociale. Si les historiens ont peur d'étudier des objets que j'appelle chauds, ben effectivement, ils perdent de son autonomie. Et donc, depuis 10 ans, ce qu'on observe, c'est une limitation de l'autonomie du travail critique des historiens, qui met sur la place publique des interprétations toujours discutables, mais pas au nom d'une mémoire ancestrale, orale, qui fait que nous avons toujours été sur Terre et non pas sommes venus du détroit de Béring, mais sommes sortis de la Terre il y a X millions d'années parce que le grand corbeau a dit que la Terre est habitable. Ça, c'est de la mythologie qu'on peut imposer comme mémoire dans l'espace public, mais pas en interdisant aux historiens et donc aux anthropologues et aux archéologues de dire si oui ou non on a trouvé des flèches au point A ou au point B. Et donc, la multiplicité des identités couplée au regard critique nous mène aujourd'hui à un aspect problématique et parfois explosif dont il faut tenir compte, nous, les historiens, qui visons justement à prendre une distance critique avec toutes les mythologies qu'on veut nous circuler au nom de l'identité.
Chers amis, je dois m'excuser. Je suis attendu à la radio dans 10 minutes. C'est en direct, alors je pense que j'ai intérêt à disparaître. Alors, je m'excuse de ce départ précipité. J'aurais aimé participer à la fin de la discussion, mais j'imagine qu'on me fera rapport.
Sans aucun doute. Merci beaucoup, Monsieur Beauchemin.
La question de Yves, elle est particulièrement importante parce que les praticiens d'histoire, dans la manière que nous faisons de l'histoire en tant que telle actuellement, nous n'avons pas accès aux mêmes ressources. Moi, si je reçois une lettre du grand chef d'un conseil de bande X, c'est tout de même l'université qui va me protéger, qui va dire, bon, on a des avocats, on a un service de la recherche, ainsi de suite. Mais vous travaillez, par exemple, d'une association historique locale dans laquelle vous avez le maire qui, à un moment donné, vous prend en grippe, puis là, qui vous envoie des ce qu'on appelle des slaps, des poursuites abusives, et ainsi de suite. Et vous êtes pas mal plus dépourvu là-dessus. Et ça, c'est un élément qui est important à mentionner. Lorsque j'ai mes étudiants qui arrivent, par exemple, faire des recherches sur des sujets chauds, ils sont beaucoup plus dépourvus que je peux l'être à l'intérieur d'un centre de recherche, ainsi de suite. Quand vous avez tout le débat, par exemple, de l'enseignement de l'histoire, c'est un sujet chaud par excellence, où vous aviez des citoyens qui intervenaient puis qui se faisaient proprement ramasser, et pourtant, il y avait une démarche qui était tout à fait historienne là-dessus. D'où l'importance de faire communauté autour de valeurs communes, puis ces valeurs communes sont des valeurs qui peuvent être de deux types, là, les deux registres que je mentionnais. Donc, évidemment, si on investit plus dans le domaine mémoriel, ça peut être évidemment les idéaux de justice, de fidélité qui sont présents. Mais si on investit beaucoup plus dans le domaine, par exemple, de l'histoire conçue comme une science, bien là, c'est les idéaux de vérité. Et ça, pour moi, un historien, là, un de mes professeurs m'avait déjà dit à l'époque que c'est pas une appellation contrôlée comme le vin, et ainsi de suite. C'est une pratique. Et cette pratique, il y a un nombre important de nos concitoyens qui sont d'excellents historiens, qui vont faire des critiques de sources, qui vont travailler sur le terrain, qui vont faire des bons rapports, qui vont travailler à la radio, qui vont travailler dans les médias, qui vont travailler et même, par exemple, le travail du romancier historique qui fait un travail sérieux de compilation, puis ainsi de suite, pour pouvoir documenter sa fiction. Pour moi, il y a une part historique là-dedans. Et ça, c'est important d'être très sensible à ces questions-là.
Il y a Martin qui voulait intervenir brièvement. Ensuite, je vous laisse aller dîner et poursuivre la discussion. Martin?
Oui, bien, pour reprendre un peu l'intervention de Yves et de revenir sur celle de Robert aussi, c'est-à-dire que, et là, c'est peut-être ce qui me distingue d'Yves, je pense pas que, disons, l'histoire ou le savoir historique peut simplement dire, ben nous... Nous disons la vérité. Notre recherche, c'est la vérité, etc. Je pense qu'il y a, une articulation. En fait, je pense que le contrat de vérité qui lie l'historien, auquel j'adhère, hein, est lié en grande partie à la société dans laquelle on vit. Et là, il y a, je crois pas que ça rejoint un peu les préoccupations de Robert, mais je pense pas que ça doit se poser en termes nécessairement de mémoire. En fait, ce à quoi je crois, c'est que, en fait, le contrat de vérité qui lie l'historien, et même son pouvoir critique, est en fait étroitement lié à la décision démocratique de se donner les moyens de réfléchir sur notre propre passé en toute transparence. Et ça, c'est le fondement même du rôle de l'historien. Je ne sais pas si vous vous rappelez 1984, le roman, mais le héros, c'est un historien archiviste qui travaille pour le gouvernement. Un régime totalitaire n'a pas besoin d'histoire transparente, tout ça. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est à quel point l'historien doit contribuer à sa société et s'inscrit dans sa société, non pas sous le seul angle d'une vérité du magistère, mais en fait sous l'angle d'un contrat de vérité qui est au cœur, en fait, du contrat social lui-même et des espoirs d'une société démocratique. Et en ce sens-là, la question de la mémoire revient, parce qu'on n'est jamais pure démocratie, on est toujours démocratie et mémoire, mais il y a le point, je pense, central de tout ça, c'est ce lien entre le contrat de vérité de l'historien et le contrat social d'une communauté politique démocratique. Voilà.
Sur ces belles paroles, je vous remercie de votre attention et de votre participation. Je remercie également les trois panélistes restants et je vous invite à revenir pour la dernière séance cet après-midi qui commence à 13h30. Bon appétit et merci encore.